7h, 9h.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 28 juin. Je suis très heureux de vous accompagner ce matin, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est vendredi et Europe 1 se met aux couleurs des Bleus aujourd'hui, en bleu au féminin. Bien sûr, c'est le match de leur vie pour les joueuses de l'équipe de France. Ce soir, un quart de finale de Coupe du Monde à Paris, au Parc des Princes, face à la meilleure équipe du monde, 21h, France-États-Unis. Et d'ici la journée spéciale, sur Europe 1 à 7h45, je reçois l'ancienne joueuse américaine Brandi Chastain, figure du foot féminin, c'est quasi une icône, double championne du monde. Elle nous dira ce qu'elle pense de cette équipe de France. 8h15, la ministre des Sports avec nous, Roxana Maraciné à nous, invitée d'Audrey Crespo-Mara. Et ce soir, Europe 1 en direct du Parc des Princes, dès 17h avec le match, bien sûr. En direct, l'actualité, c'est aussi bien sûr la canicule, le plus chaud reste à venir, 4 départements en alerte rouge. Et puis quel premier bilan pour l'expérimentation du service national universel? Les 2000 jeunes qui y participent terminent aujourd'hui leurs 12 jours de stage. Nous sommes retournés les voir, Europe 1 va plus loin à 7h20. Voilà pour le programme, soyez les bienvenus. Courage, la semaine éprouvante se termine.
Merci d'avoir choisi Europe 1 en ce vendredi matin. Et très bon réveil, il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Sébastien Krebs.
Et avec Hélène Zélani pour le journal de 7h. Bonjour Hélène.
Non, bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À la une ce matin.
C'est un peu la finale du mondial avant l'heure. France-États-Unis ce soir au Parc des Princes pour une place en demi. Nous serons à Clairefontaine avec Cyril de la Morinerie. Des Bleus qui risquent de souffrir de la chaleur comme nous tous. 76 départements en vigilance orange et même 4 en vigilance rouge, c'est du jamais vu. Et puis certains l'avaient surnommé l'Arsène Lupin du 21e siècle. L'ex-convoyeur de Fontenay Musulin a été arrêté à Londres avec une grosse somme en liquide.
Europe 1.
Et donc duel au sommet, ce soir à 21h au Parc France-États-Unis, avec l'espoir de décrocher un ticket pour la demi-finale du Mondial. Hier soir, c'était le dernier entraînement des Bleus à Clairefontaine. Cyril de la Morinerie y était pour Europe 1.
Après quelques passes à l'ombre dans une atmosphère détendue, les Bleus basculent plein soleil. Les voici désormais extrêmement concentrés. Le moment est crucial. Il s'agit, malgré les conditions climatiques extrêmes, d'effectuer les derniers réglages avant le choc face aux Américaines. Bouteille posée au sol à quelques mètres d'elles, les Françaises s'appliquent balle au pied. Elles ont également étudié à la vidéo cette semaine cet adversaire si redouté. Les Américaines, championnes du monde en titre, évoluent dans une autre dimension. Il faudra pourtant les battre pour écrire une belle histoire. Mais la sélectionneuse Corinne Diacre dédramatise.
Quand on joue les États-Unis, on n'a pas de pression. C'est pas possible, au contraire, c'est de la motivation supplémentaire. On va affronter la meilleure équipe du monde. Donc, mis à part faire un bon match, c'est la seule pression que l'on a.
Des Américaines que les Bleus avaient battues 3 buts à 1 en janvier dernier, elles l'ont fait une fois, alors pourquoi pas deux, espère Corinne Diacre, qui prépare ce rendez-vous depuis 2 ans, lorsqu'elle a pris ses fonctions de sélectionneuse. Elle savait bien que ce grand jour arriverait. Claire Fontaine, Thierry de la Morinerie, Europe 1.
Le grand jour, donc, coup d'envoi à 21h, mais vous avez rendez-vous dès 17h pour la soirée spéciale, d'abord avec Mathieu Béliard devant le Parc des Princes.
Et ensuite avec Lionel Rosso à partir de 20h, match à suivre évidemment en direct et en intégralité. On le suivra avec vous ce match, puisque vous êtes invité à Europe 1 à le suivre sur écran géant dans notre studio Pierre Belmar.
Et le vainqueur de ce France-États-Unis affrontera les Britanniques qui hier soir ont éliminé les Norvégiennes 3-0. Lors de ce quart de finale, des pause fraîcheur pourrait être décidée pour ménager les organismes. Il fera 27 degrés à Paris. Aujourd'hui, la canicule monte encore d'un cran, avec des températures historiques dans l'Hexagone, 42 à 46 à l'ombre. La vigilance rouge est déclenchée dans 4 départements du Sud-Est, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. C'est une première, Virginie Salmen. Quelles seront les mesures concrètes?
Ce sont les préfets qui vont prendre la main dans ces 4 départements et monter des cellules de crise pour cette alerte sanitaire maximale. Les sorties scolaires ou les événements festifs sont annulés, sauf s'ils sont prévus dans des lieux frais. Plus de sport à l'école jusqu'à nouvel ordre. Pour la première fois, une ministre autorise les parents d'élèves à ne pas amener leurs enfants à l'école aujourd'hui, après avoir prévenu l'établissement. Les maires sont appelés à continuer leur accompagnement de terrain des personnes fragiles inscrites sur les registres communaux et à mettre en place, si possible, des navettes pour leur donner un accès quotidien à l'eau et aux salles rafraîchies. Même les personnes en bonne santé doivent absolument éviter de pratiquer une activité physique ou sportive aujourd'hui dans ces départements. Arrêter de faire du jogging ou du vélo à 14h, ne serait-ce que pour ne pas donner du travail supplémentaire aux pompiers et aux médecins. Voilà en substance l'appel d'Agnès Buzyn. Le risque pour n'importe quelle personne, c'est de faire monter sa température corporelle de manière incontrôlable et de provoquer un accident cardiaque. Cette semaine, un cycliste est décédé de cette façon dans le Vaucluse. Vigilance encore, la nuit la plus chaude n'est pas passée, ce sera la nuit prochaine.
Virginie Salmen, et malgré ces températures étouffantes, certains ne changent rien à leurs habitudes, comme ces trois retraités fans de pétanque rencontrés à Marseille.
On subit. Si on est à l'homme par les arbres, il n'y a pas de souci. Mais il y a des terrains de boules qui n'ont pas d'arbres. Et là, c'est très difficile. Hein. On ne peut pas jouer.
Mais après, on est quand même des passionnés, même qu'il fasse grosse canicule, eh bien, on va boire un coup, on fait des pauses entre les parties.
En Provence, ça a toujours eu de la canicule. Nous, on est quand même un peu habitués par rapport à une personne du Nord qui arrive et qui est totalement blanche. Si elle joue aux boules, elle va devenir cocolicot. Hein.
Scène captée par Nathalie Chevan, 76 autres départements restent en vigilance orange canicule. Beaucoup de jeunes ouvrent les bouches à incendie pour se rafraîchir. Scène qui a tourné au drame hier soir à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Un petit garçon de 6 ans a été grièvement blessé. Il a été projeté en l'air avant de retomber lourdement. Et puis notez que la SNCF conseille de reporter ou d'annuler les déplacements dans les zones touchées par le pic de canicule. Tous les billets TGV et intercités pourront être remboursés ou échangés sans frais. Jusqu'à dimanche.
Alors, il est 7h05.
Son histoire avait inspiré le livre et le film L'Adversaire. Jean-Claude Roman sort de prison aujourd'hui.
En liberté conditionnelle pour cet homme qui avait tué toute sa famille en 1993. Chanel Petit l'aura passé 26 ans derrière les barreaux.
Oui, après 18 ans de mensonges, 18 ans à tromper sa famille et ses amis. C'est l'histoire du docteur Roman qui se fait passer pour un médecin de l'Organisation Mondiale de la Santé à Genève. Alors qu'il a raté le concours d'entrée en faculté de médecine, il vit en escroquant ses proches qui lui ont confier ses économies, même ses parents. À l'époque, il promet de les placer en Suisse, mais les garde en fait pour lui. Et puis un jour, l'argent commence à manquer. Certains débiteurs découvrent son imposture. La vérité menace d'éclater. Le 9 janvier 1993, au matin, dans leur maison dans l'Ain, il tue son épouse, Florence, avec un rouleau à pâtisserie. Puis leur fille de 7 ans, Caroline, et leur fils de 5 ans, Antoine, en leur tirant dans le dos avec une carabine. Il se rend ensuite dans le Jura, assassine ses parents, rentre chez lui le lendemain, avale des barbituriques et met le feu à sa maison. Il sera retrouvé inconscient mais vivant par les pompiers.
Chanel Petit, Jean-Claude Roman qui devrait rejoindre une abbaye de l'Indre à 60 km de Châteauroux.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal d'Hélène Zélani. Nous irons à Tunis où l'attentat qui a tué un policier hier est désormais revendiqué par l'État islamique. Tout de suite.
Il est 7h07, votre matinale info, Sébastien Krebs.
La suite du journal, Hélène Zélani et le groupe État islamique qui revendique donc le double attentat de Tunis contre les forces de sécurité.
Oui, en l'espace de quelques minutes, deux attentats ont frappé la capitale. Un policier a été tué, 8 autres personnes blessées. Dans le même temps, le président Essebsi, âgé de 92 ans, a été hospitalisé dans un état critique. La Tunisie n'aborde donc pas les élections législatives et présidentielles de l'automne dans la plus grande sérénité. Jean-Sébastien Soldaigny est l'envoyé spécial d'Europe 1.
L'avenue Bourguiba est comme assommée. D'ordinaire si vivante, elle semble étouffée par les barrières de sécurité qui verrouillent le quartier après l'attentat. Annie regarde des terrasses clairsemées et se dit que les terroristes ont envoyé un message pour critiquer le pouvoir.
Qu'ils sont incapables de défendre le pays et peut-être incapables de nous protéger. Ils n'arrivent pas à protéger les gens, donc il faut se débarrasser d'eux.
De quoi peser sur les scrutins de l'automne, à moins que les couteaux ne soient déjà en train de s'aiguiser. Avec le président Essebsi à l'hôpital, ses deux amis n'imaginent pas une campagne dans le calme.
Il y a des gens qui veulent profiter de sa maladie.
Tout le monde veut gagner les élections. Tout le monde va jouer sur ça.
Nous sommes dans une situation très délicate en Tunisie maintenant.
Délicate et floue, si l'hospitalisation dure avec une vacance du pouvoir, c'est à la Cour constitutionnelle de désigner le président par intérim. Sauf que cette cour n'a toujours pas été créée. Tunis, Jean-Sébastien Soldaigny, Europe 1.
Cela faisait un moment qu'on n'avait pas entendu parler de l'un des voleurs les plus célèbres de France, Tony Muselin.
Oui, l'ex-convoyeur de fonds avait été condamné pour s'être enfui avec plus de 11 millions d'euros il y a 10 ans. Il a purgé sa peine, mais 2,5 millions n'ont jamais été retrouvés. Il a été arrêté à Londres et après 48 heures d'interrogatoire, remis en liberté, Guillaume Biais.
L'ampleur de la somme a tout de suite alerté le banquier britannique. Après avoir changé 4000 livres sterling en euros dans une agence, Tony Muselin est revenu pour changer 10 fois plus, 40 000 livres, l'équivalent de 44 000 euros. D'où son arrestation et l'enquête ouverte par Scotland Yard. L'ancien convoyeur de fonds a expliqué que cet argent vient de la vente d'une Ferrari. Mais laquelle ? Car en France, Tony Muselin a été condamné pour escroquerie à propos d'une Ferrari. Il avait fait une fausse déclaration d'accident alors qu'il l'avait en fait revendue. Si l'argent vient de là, alors il risque des poursuites pour blanchiment. Même chose s'il s'agit d'une partie du butin qui n'a jamais été retrouvée, ces fameux 2,5 millions d'euros évaporés du fourgon blindé que Tony Musulin a volé en 2009. Le vrai mystère de cette retentissante affaire. Où est passé ce pactole? La question alimente les fantasmes depuis 10 ans déjà. Mais c'est la première fois que l'ancien convoyeur est arrêté avec une grosse quantité de cash. Pour l'instant, les Anglais lui ont confisqué l'argent. Eux seuls peuvent enquêter et éventuellement le poursuivre en justice.
Guillaume Bien, et puis si vous partez en week-end ou en vacances, en plus de la chaleur, il vous faudra sans doute affronter les bouchons. La journée est classée orange dans toute la France et même rouge en région parisienne.
Allez, courage et beaucoup d'eau, hein, beaucoup d'eau dans la voiture. Merci beaucoup, c'était le journal d'Hélène Zélani.
La matinale d'Europe 1. Sébastien Krebs.
Il est 7h10, Sébastien, c'est l'heure de retrouver Carole Ferry sur le terrain.
Bonjour Carole.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Vous êtes où ce matin, Carole?
Je suis sur un stade de foot, alors pas sur la pelouse du Parc des Princes, hein, où les joueuses de l'équipe de France affrontent les États-Unis ce soir. Moi, je suis dans un petit club de filles à Poissy, dans les Yvelines. Elles ont entre 12 et 16 ans, s'entraînent juste pour le plaisir. Dans les vestiaires, certaines arrivent en robe et chignon, là, elles chaussent les crampons. Et une fois sur le terrain, c'est une émotion que nous décrit Bintou, 15 ans.
Sur le terrain, c'est 90 minutes de bonheur, 90 minutes de stress, 90 minutes de peur, de joie. À la cantine, c'est dès que j'ai fini de manger, je joue au foot avec les garçons. Tout ça.
Est-ce qu'on a aussi les équipes de garçons ou les équipes de filles? Ou est-ce que vous jouez tous ensemble?
Non, on joue tous ensemble. Bon, il ne faut pas tout le temps la place, les garçons, mais on essaie de la prendre de force. Des fois, je fais une semaine sans jouer au foot, ça me manque. C'est en vrai une drogue pour moi, en fait.
Voilà, vous voyez, en 2019, faire du foot pour les filles, c'est comme faire du théâtre ou de la piscine, c'est très naturel. Écoutez, Baby, elle a 12 ans et clairement le foot dans la peau.
Des fois, quand je suis triste, je vais sur un terrain et je me sens un peu mieux.
Ou même toi, toute seule avec un ballon?
Oui.
Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là?
Je me sens libre. Des fois, je suis fatiguée de l'école ou encore je suis triste parce que j'ai une mauvaise note. Ou quand j'ai fait une bêtise et que je ne l'ai pas encore dit.
Et là, tu viens faire du foot?
Oui.
Voilà, faire du foot. Quand on est une fille, on l'entend, c'est totalement naturel, évidemment, pour elle. Est-ce que ça l'a été aussi pour leurs parents ou est-ce que ça a été un choix difficile parfois à faire accepter?
Parfois, c'est un peu compliqué. Quand il y a un blocage, il vient plutôt de la mère, comme pour Adra, à la 16 ans.
Au départ, quand je voulais faire du foot, ma mère, elle était pas trop d'accord. Elle me disait « Non, c'est un sport de garçon, tu fais pas ça ». Je l'ai harcelée, tout le temps je lui disais « Je vais faire du foot, je vais faire du foot, je vais faire du foot ». Et à la fin, elle a accepté.
Tu vas faire quoi là pour le match France-États-Unis?
Je vais regarder la télé avec mon père.
Et t'as des frères et sœurs?
Oui, j'en ai deux.
Et vous regardez, c'est tous les enfants avec papa?
Non, il y a que moi, les autres, ils aiment pas trop le foot.
Ça crée un lien particulier avec ton père?
Oui. Oui, ça nous a beaucoup rapproché le football. On regarde le match, on discute des différents joueurs, de leur parcours, les belles actions, etc. Et quand ils gagnent, évidemment, on crie. Et là, ma mère, elle est pas contente.
Et voilà, la mère, elle n'est pas contente pour les voisins. Bon, vous l'entendez, Sébastien, il y a de la joie, de l'enthousiasme. Et selon la coach, pourtant, Karine, toujours pas des qualités de traitement avec l'équipe des garçons.
Par exemple, le minibus, on ne l'a pas du tout. Moi, c'est toujours les parents qui viennent nous aider.
Alors que les garçons, eux, ils ont un minibus.
Oui, voilà, voilà.
Pour les emmener au match.
Voilà, voilà. Après, niveau des ballons, il nous en reste 10, mais pitoyable.
Alors que les garçons?
Ils ont des super ballons de 300 euros. C'est la différence entre les filles et les garçons actuels. Hein.
Mais elle ne se laisse pas abattre. Il y a 8 ans, il y avait une seule équipe de filles à Poissy. Il y en a 7 aujourd'hui. Et alors, avant de nous quitter, Sébastien, je vous propose d'aller écouter cette passion sur le terrain.
Allez, les filles, on est en mouvement. C'est parti! C'est parti, allez! Voilà! Centre, centre! Bien joué!
Donc voilà, il y a de la passion, il y a de la joie et il y a de l'enthousiasme sur ce terrain et chez ces graines de championnes à qui on souhaite de réussir autant que nos bleus, hein, qui affronteront donc ce soir les États-Unis au Parc des Princes. Merci beaucoup, Carole Ferry. Bon week-end à vous.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
À suivre sur Europe 1, l'édito éco signé Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sébastien.
De quoi on parle aujourd'hui?
Et on part au Japon où se réunissent les grandes ce monde et Donald Trump fait déjà le spectacle.
On y va dans un instant et puis à 7h20, le service national universel. La première phase de l'expérimentation s'achève pour les 2000 jeunes volontaires âgés de 16 ans. Quel premier bilan! Notre correspondant à Toulouse a passé la dernière journée avec eux après 12 jours de stage. Europe 1 va plus loin en immersion à Artigues, dans les Hautes-Pyrénées. A tout de suite.
Excellent réveil à tous, il est 7h14.
Bouygues Télécom. Europe 1.
Il est 7h16, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Sébastien Krebs.
La ministre de la Santé Agnès Buzyn attendue aujourd'hui dans le Gard et l'Hérault. Ce sont deux des quatre départements avec le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône placés en vigilance rouge. Canicule, c'est une première en France. Il vient de passer 26 ans derrière les barreaux. Jean-Claude Roman sort de prison aujourd'hui. Il avait été condamné à la perpétuité pour avoir tué sa femme, ses deux enfants et ses parents. La Cour de cassation rend sa décision cet après-midi dans l'affaire Vincent Lambert. Elle devra dire si la Cour d'appel pouvait ordonner la reprise des soins pour ce patient en état végétatif depuis 10 ans. Et puis la météo, seules les côtes bretonnes seront épargnées par la chaleur étouffante. Aujourd'hui, on attend jusqu'à 45 degrés à Carpentras.
Météo complète avec Laurent Cabrol juste avant le journal de 7h30. Europe 1. Économie maintenant, Sébastien, c'est l'édito Eco avec le Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Les grands de ce monde se retrouvent donc au Japon pour le G20. Ça a commencé cette nuit à Osaka, mais dans quel climat ? Entre Donald Trump et ses partenaires, la tension est à son comble, Nicolas.
Oui, alors la méthode est rodée. Hein. Avant d'arriver à Osaka pour ce G20, le président américain s'en est pris pratiquement à tous ses alliés. Selon lui, c'est évidemment pour la bonne cause, avec la modestie qu'il caractérise. Il a même envoyé ce tweet. « Je suis à bord d'Air Force One, en route pour sauver le monde libre. » Rien que ça. Alors il s'en est pris d'abord au pays hôte, le Japon, en dénonçant le déséquilibre en matière de défense. « Si le Japon est attaqué, nous ferons la troisième guerre mondiale », a-t-il dit. « Mais si c'est nous qui sommes attaqués, les Japonais regarderont ça sur leur télévision Sony. Donald Trump fait d'ailleurs le même reproche aux Européens et plus particulièrement aux Allemands qu'il a qualifié de partenaires défaillants. Angela Merkel, qui a prévu un tête-à-tête, sait à quoi s'en tenir. Elle est habituée, d'ailleurs, je l'ai entendu raconter à Davos au début de l'année, qu'à chaque fois qu'elle rencontre Trump, il lui reproche les excédents commerciaux allemands et puis il lui dit que l'Allemagne devrait être reconnaissante quand même pour tout ce que les États-Unis ont fait pour sa reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, l'économie n'est jamais très loin. En fait, Donald Trump tire sur tous les pays avec lesquels il a un déficit commercial.
Oui, alors juste avant de rencontrer le Premier ministre indien, par exemple, il a accusé l'Inde d'avoir augmenté ses droits de douane sur les produits américains. Et puis surtout, le monde retient son souffle avant la rencontre demain avec le président chinois Xi Jinping. Alors, juste avant cette rencontre, les États-Unis ont décidé de suspendre l'application de toutes ces nouvelles taxes douanières contre les produits chinois, contre 300 milliards de produits. C'était une condition posée par le président chinois pour rencontrer Trump. En fait, les deux pays ont intérêt à un accord plutôt qu'à se faire la guerre. Leur économie s'effondre, ils veulent un accord, a prédit Trump sur Fox News, sa chaîne de télévision favorite. En fait, en réalité, ce qui s'effondre, et c'est déjà la leçon de ce G20, eh bien, c'est ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire l'objet même de ce type de réunion, l'idée qu'il faut s'organiser au niveau mondial pour traiter les grands défis, dérèglement climatique, biodiversité, terrorisme, optimisation fiscale, etc. Aucun de ces sujets ne peut être traité au niveau national ni même régional, mais aucun ne peut l'être non plus sans les États-Unis, et c'est tout le problème avec un Donald Trump qui se met tout le monde à dos.
Merci beaucoup Nicolas Barret. À l'instant, justement, commence un tête-à-tête à Osaka entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Donald Trump qui vient de faire cette première déclaration et qui a loué ses très bonnes relations avec Vladimir Poutine. C'était l'édito Éco, signé Nicolas Barret.
Europe 1. Sébastien Krebs. Et il est 7h19, Europe 1 va plus loin. Ce matin, enquête sur le service national universel.
On en a beaucoup parlé de ce service national universel qui a débuté il y a 12 jours. Première phase, un stage de cohésion que ces jeunes effectuaient. Il se termine aujourd'hui pour les 2000 volontaires âgés de 16 ans qui ont participé donc à cette expérimentation dans 13 sites un peu partout en France. Bonjour Benjamin Péter.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant en Occitanie et vous avez assisté donc à cette dernière journée avec une centaine d'entre eux dans les Hautes-Pyrénées.
Oui, ils arrivaient de toute la France, de Guyane même pour certains, qui ont vu la neige pour la première fois sur les sommets pyrénéens. Ils ont passé 12 jours à 1200 mètres d'altitude, ils savaient que ça allait être dur. Ils n'ont pas été déçus, alors il y a la question de l'uniforme, surtout par cette chaleur, mais ça, tous ceux que j'ai rencontrés s'y sont très vite faits. En revanche, le réveil à 6 heures, juste avant la levée des couleurs, c'est un peu plus dur. Et derrière, des journées très denses pour Tristan qui arrive de la Haute-Saône.
Donc on avait différents modules, on avait des interventions de militaires, des interventions de pompiers, des choses comme ça. Et ensuite, on avait des visites culturel. Par exemple, on est allé au cirque de Gavarnie. On était crevés, mais bon, on enchaînait le lendemain sans problème.
Alors hier, ces jeunes ont reçu des diplômes des mains de Gabriel Attal, le secrétaire d'État en charge de la jeunesse, et de la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Un honneur pour Mathieu.
C'est vraiment une fierté d'avoir ça dans les mains. C'est quand même 2 semaines où on a appris à connaître des gens qu'on ne devrait pas, même pas connaître. Des gens différents de chacun de nous. ça fait quand même un pincement au cœur de se dire qu'on se verra plus, quoi.
Vous seriez bien resté une semaine de plus.
Ah bah oui, pourquoi pas. Ça ne peut être que bénéfique pour notre futur.
Alors, ils ont l'air ravis, ces jeunes, on entend leur engouement, Benjamin, mais il y a un détail, c'est qu'ils étaient quand même tous volontaires, ils ont fait la démarche de s'inscrire dans ce service national universel. Est-ce que tout va se passer aussi bien le jour où il deviendra potentiellement obligatoire, puisque c'est ce que souhaite le président de la République?
Eh bien, c'est toute la question, hein. Déjà ici, un jeune a été exclu pour s'être battu. Trois autres ont subi la même sanction dans les autres départements qui accueillaient le SNU. Edith est encadrante. Le reste de l'année, elle dirige un centre de loisirs et elle ne croit pas trop à la contrainte.
Là, quand même, les jeunes qui sont là, ils ont quand même signé un engagement, un règlement intérieur où pendant deux semaines, ils s'engageaient à ne pas toucher à leur téléphone portable ni à fumer. Un jeune qui n'est pas prêt à adhérer à un règlement comme ceci, faudra envisager un autre moyen.
Et Abdoulaye et Toura s'inquiètent eux aussi de la disparition de cet esprit de groupe qu'ils ont su créer si certains viennent là contre leur gré.
Si ça devient obligatoire, il y aura des gens, ils seront pas contents, ils vont venir juste pour foutre la merde et tout. Que nous, comme on est volontaires, on a envie de faire ça, du coup, on vient dans une optique d'être calme, d'écouter, d'être respectueux.
Mais après, s'ils viennent, ils vont kiffer. Juste le réveil 6h du matin, c'est chou, mais après sinon le reste, ils vont kiffer.
Mais Gabriel Attal l'affirme, il n'y aura pas de réformés, tout le monde sera accueilli et pourquoi pas imaginer des sanctions pour les plus réfractaires, par exemple en limitant les accès au bac ou les possibilités de passer le permis de conduire.
Aujourd'hui, vous avez un moment qui est obligatoire pour tous les jeunes, qui est la journée de défense et de citoyenneté. Elle est obligatoire pour les jeunes. Un jeune qui ne fait pas sa journée de défense, il a un certain nombre de verrous pour passer son bac, son permis de conduire, d'autres dispositifs. On s'inspirera sans doute de ce même mécanisme. Mais ça, c'est un débat qu'on aura au moment de la discussion législative.
Voilà, en attendant cette discussion, Benjamin, au programme, il y avait cette semaine un forum de l'engagement auquel tous ces jeunes ont participé. Parce qu'en fait, le service national, il ne va pas s'arrêter à ce stage. Ce n'est pas fini pour eux. Ils doivent encore réaliser des missions d'intérêt général.
Oui, ce sont 84 heures qu'ils vont devoir effectuer dans leur département d'origine, cette fois dans une association dans le domaine de la santé, de l'environnement, de la culture. Les déclinaisons sont multiples. Et hier, ils rencontraient des pompiers, des militaires, des responsables d'associations pour faire leurs vœux. Et Tanguy voudrait aider des patients.
Et puis l'idée, je crois que Benjamin, c'est aussi de les inciter à continuer à s'engager par la suite.
Oui, alors effectivement, à l'heure qu'il est, donc certains sont déjà sur la route de retour, mais vous les reverrez très prochainement, ces uniformes en polo blanc, pantalon bleu marine, sur les Champs-Élysées, puisque 150 d'entre eux sont sélectionnés pour défiler le 14 juillet.
Voilà, ils sont un peu les pionniers, ces 2000 jeunes volontaires qui expérimentent ce service national universel que souhaite généraliser Emmanuel Macron. Il concernera chaque année 700 000 jeunes entre 16 et 18 ans. Merci beaucoup Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 en Occitanie pour ce dossier Europe 1 va plus loin.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
À suivre sur Europe 1, l'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
Bonjour Sébastien.
Du nouveau dans l'urbanisme
oui,
ce matin.
Une petite astuce pour végétaliser même les villes les plus bétonnées, faire pousser des mousses sur les façades des immeubles.
On va découvrir ça avec vous dans un instant.
Il est 7h26, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour avec Anissé Mbida, Sébastien.
Et l'innovation du jour ce matin, Anissé, est une idée originale pour améliorer le climat et réduire la pollution dans nos villes. Il s'agit de couvrir les façades des bâtiments avec des mousses.
Oui, et pourquoi des mousses? Parce que c'est probablement ce qu'il y a de mieux pour se débarrasser de la pollution. Non seulement elles transforment le CO2 en oxygène, bon ça c'est assez classique, mais en plus, elles peuvent piéger et digérer les particules fines, les métaux lourds et même l'oxyde d'azote. Pour vous donner une idée, si on prend la façade d'un petit immeuble de 3 étages et qu'on la couvre de mousse, on aurait le même effet dépolluant qu'une forêt de 600 arbres, donc c'est énorme. Ah oui. Et en plus, c'est très joli, hein, ça reste vert toute l'année, ça absorbe le bruit et en plus, ça apporte un petit peu de fraîcheur et on a bien besoin en ce moment.
Ouais. Et concrètement, comment on fait pousser des mousses sur une façade en béton?
Eh bien, une start-up allemande, Artificial Ecosystem, a mis au point une espèce de système de dalle avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour que les mousses puissent se développer et s'entretenir toutes seules. Alors, il faut quand même relier l'ensemble à un réservoir d'eau, mais sinon il n'y a rien à faire. Hein. C'est comme un jardin vertical en kit qui serait totalement autonome.
On parle des mousses qu'on voit habituellement au pied des arbres,
c'est ça? Exactement, c'est les mêmes.
Ça existe déjà quelque part sur des dalles?
Alors ça commence, hein, c'est tout nouveau. Hein. La première installation a été faite sur les murs de l'université de Kaiserslautern en Allemagne. C'est là où a été développée la technologie. Mais l'idée c'est de travailler avec les villes du monde entier, d'en installer un peu partout. Et pas seulement sur les façades nord, parce que contrairement à la légende urbaine, bah, les mousses ça pousse partout. On n'en trouve pas seulement au nord des arbres. Elles cherchent simplement l'endroit où il y a le plus d'humidité.
Des mousses sur les murs pour lutter contre la canicule et se procurer un peu de fraîcheur.
Très bonne idée.
Voilà, c'est peut-être l'avenir. C'était l'innovation du jour avec Anissé Mbida. Merci, bon week-end.
Et l'innovation du jour avec EDF, bâtiment durable, éclairage intelligent, mobilité électrique. Avec EDF, devenons l'énergie qui change tout. Plus d'infos sur EDF.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kallmann. Tout de suite, la météo avec vous, Laurent Cabrol.
Alors, oui.
Allez-y, Laurent, je vous en prie.
Si vous cherchez le nord, ben c'est vrai, la mousse est bien. Sur l'arbre, c'est elle qui indique le nord. Et vous allez vers le nord de la France, toujours vers le nord, et vous aurez un temps qui sera beaucoup plus clément. 22 à Cherbourg, 25 à du côté de Cotentin. Nous avons des températures par ailleurs sur l'Atlantique qui sont sympas. 25 à Biarritz, 26 à La Rochelle. Bref, les températures les moins élevées sont situées sur les côtes, et en particulier sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, et sur les côtes atlantiques. Ça ne va pas trop durer dans la journée, puisque quand même, les nuages qui sont présents vont s'en aller, et nous allons retrouver un temps un peu plus chaud et un peu plus insupportable. Il fera aujourd'hui entre 31 et 45 degrés, 45 à Nîmes. Alors le pôle de 44, 45, 42, Montluçon, Perpignan, Montpellier, Avignon, Nîmes, ce sont des villes bien souvent marquées par les vigilances orange et les vigilances rouges. En ce qui concerne maintenant Marseille, 38, 36 à Toulouse, 35 à Nantes, 32, 33 à Paris, 31 à Colmar et Belfort. Nous allons vivre donc une journée chaude, très chaude, mais promis, on arrive pratiquement à la fin. Je vous dis, allez, c'est le point d'orgue aujourd'hui, presque.
En tout cas, c'est la dernière journée au travail avec une telle chaleur, et on va ensuite passer le week-end peut-être un peu plus au frais. Merci beaucoup, Laurent Cabral, à tout à l'heure.
Sébastien.
Fallait-il vraiment l'inviter? Le MEDEF convie Marion Maréchal à son université d'été. Et ça fait des remous, on en parle avec Jean-Michel Apathy à 7h40. 7h43, Axel de Tarlé, Ford supprime 12 000 emplois en Europe. Et ce n'est peut-être qu'un début pour les constructeurs automobiles. Et puis avant France-États-Unis ce soir en quart de finale de la Coupe du Monde, une invitée exceptionnelle à 7h45. Je reçois Brandi Chastain, légende du foot féminin, double championne du monde avec l'équipe américaine. Merci d'être avec nous ce matin et d'avoir choisi Europe 1. Très bon réveil.
Nous sommes le vendredi 28 juin, il est 7h30.
7h, 9h.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
À 7h30, le journal avec Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Allez, courage. Encore deux jours d'extrême chaleur et ensuite le mercure va commencer à devenir raisonnable. Quatre départements sont en alerte rouge canicule. Les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Vaucluse et l'Hérault. À Montpellier, fermeture des écoles, crèches et haltes garderies à partir de midi. Les autorités appellent aussi à une vigilance toute particulière pour ceux qui se baignent et qui s'exposent au soleil sur les plages. Le reportage de Frédéric Michel à Fréjus, où pompiers et secouristes font aussi beaucoup de prévention.
Trois débuts de noyade, des malaises à répétition en 10 jours. Les pompiers de Fréjus-Saint-Raphaël sont intervenus plus de 200 fois sur les 16 km de plage dont ils ont la surveillance. Le lieutenant Franck Cuomo.
On a des personnes qui patrouillent, qui vont au contact des gens toute la journée pour leur donner des conseils, notamment de ne pas s'exposer longtemps au soleil ou de s'y exposer progressivement et de manière raisonnable, d'éviter de s'exposer entre des tranches horaires qui sont 11h et 16h, d'utiliser des crèmes solaires, des chapeaux pour les enfants, bien s'hydrater.
De Fréjus à Saint-Raphaël, 16 postes de garde seront armés tout l'été, soit 38 secouristes qui redoublent de vigilance en ces temps de canicule.
Bonjour madame, vous avez pensé à mettre de la crème?
Oui.
Bon, super.
Oui.
Pensez avec à bien hydrater, à le mettre à l'ombre.
Et pour ce couple de septuagénaires venus de la région parisienne, cette présence des hommes en rouge et jaune fluo, c'est la tenue de l'été, cette présence est rassurante.
Oui, tout à l'heure, un pompier est venu nous voir, on a discuté avec lui, savoir comment on allait, comment on se sentait, et on apprécie le soleil, mais avec précaution.
L'an dernier, en France, ce sont 198 personnes qui sont décédées par noyade.
Frédéric Michel, Agnès Buzyn est attendue dans le Gard et l'Hérault aujourd'hui. Auparavant, la ministre de la Santé va participer avec Édouard Philippe au comité interministériel sur la canicule. 76 départements restent aussi en vigilance orange. Circulation différenciée maintenue à Paris, Lyon et Marseille. Et ce vendredi marque le début des départs en vacances pour certains du monde attendu, notamment en Ile-de-France. La SNCF, elle conseille par ailleurs à ses clients d'annuler ou de reporter leurs déplacements dans les zones touchées par les fortes chaleurs. Billets remboursés ou échangés sans frais. Et puis les pompiers appellent à la vigilance. Hier, un enfant de 6 ans a été grièvement blessé après avoir été projeté par le geyser d'une bouche à incendie ouverte de manière sauvage à Saint-Denis, près de Paris. C'est ce qu'on appelle le street pooling, fréquent en période de canicule.
Un réquisitoire bouleversant hier au procès France Télécom.
Oui, une des filles de Rémi Louvradou qui s'était immolée par le feu devant son entreprise en avril 2011 s'est exprimée seule à la barre. La famille de ce père de 4 quatre enfants tenait absolument à témoigner. Raphaël, l'un des fils de la victime, s'est confié à Chloé Triomphe pour Europe 1.
Il n'y a pas que des noms dans un dossier, il n'y a pas que des numéros. On est des vraies personnes, on existe. Je pense que c'est aussi nécessaire que les prévenus nous voient vraiment, voient la conséquence, physiquement la conséquence de ce qu'ils ont fait. Nos mots sont durs parce que ce qu'a vécu mon père et ce que nous on a vécu après sa mort, ça a été extrêmement dur. C'est pour ça qu'au fond ça nous a fait rire quand un avocat de la défense au début du procès dit on aurait été mieux aux assises pour gérer le nombre de parties civiles. Nous c'est exactement là qu'on voulait les voir, effectivement. Parce que tout ce qu'on a découvert après coup, c'est quelque chose d'organisé, de prémédité, de conduit sur des années. Et nous on venait dans ce procès et on venait témoigner pour avoir des réponses. Les réponses on les aura pas. Leur discours c'est un discours indécent, c'est un déni total, c'est de l'enfumage. Et la deuxième chose qu'on pouvait espérer, c'était qu'ils repartent d'ici avec une sanction exemplaire. Et ça, on sait d'ores et déjà que ça ne sera pas vraiment le cas, puisqu'ils ne vont pas aller en prison.
Un témoignage recueilli par Chloé Triomphe. Après 26 ans derrière les barreaux, Jean-Claude Roman retrouve la liberté aujourd'hui. L'homme âgé de 65 ans va rejoindre une communauté de moines. Celui qui s'est fait passer pour un faux médecin de l'OMS avait été condamné à perpétuité pour le meurtre de sa femme, de ses deux enfants et de ses parents en 1993. La Cour de cassation doit décider aujourd'hui si la Cour d'appel de Paris avait le droit d'ordonner la reprise des traitements de Vincent Lambert le 20 mai dernier. Et puis Jean-Luc Mélenchon et d'autres responsables de la France insoumise seront jugés en correctionnel en septembre prochain, après les accrochages qui avaient émaillé les perquisitions visant son domicile et le siège du mouvement il y a 8 mois.
L'homéopathie devrait bientôt être déremboursée. La Haute Autorité de Santé a rendu son avis.
Oui, ce sera bientôt officiel, mais la décision a déjà fuité dans la presse. Hier, les laboratoires Boiron, leader français du marché, ont demandé la suspension de leur cours de bourse. Les salariés, 2500 en France, dont la moitié en région lyonnaise, sont très inquiets. Le reportage à Messimi de notre correspondant Jean-Luc Bougeon.
Chez les salariés, c'est l'incompréhension qui domine. Ce déremboursement programmé de l'homéopathie, cela signifie fragiliser une entreprise leader dans son domaine, comme si la France se tirait une balle dans le pied, estime David Pitot, délégué FO, 31 ans chez Boiron.
Aujourd'hui, une entreprise qui dégage des bénéfices, qui fait de l'emploi, qui investit en France, qui fabrique en France, j'arrive pas à comprendre ce type de mesure qui pourrait avoir des conséquences sociales chez nous. On est une entreprise leader dans son secteur d'activité, un peu un fleuron dans ses labos pharmaceutiques, c'est incompréhensible pour nous.
Aujourd'hui donc, tous, direction et salariés, font corps contre la menace, car Boiron, ce n'est pas une entreprise comme les autres. Il y a dans le laboratoire un côté très familial, avec des salariés très attachés à leur société, mais aussi beaucoup de couples Boiron. Il est aussi fréquent d'y faire toute sa carrière. C'est le cas par exemple de Nelson, 21 ans d'ancienneté, responsable de production après avoir démarré comme magasinier et dont la femme travaille avec lui. Il n'est aujourd'hui pas rassuré.
Bien sûr qu'on est inquiet. Il y aura forcément des conséquences sur l'activité de l'entreprise.
Et perdre tous les deux notre emploi dans l'entreprise, ça serait dramatique. Nous deux, c'est toujours dans un coin de notre tête et on en parle tous les jours. Mais on a une telle confiance dans notre entreprise et nos médicaments, qu'on va se battre jusqu'au bout.
Tout à l'heure, les salariés seront reçus par le maire Gérard Collomb, très sensible au sort des 1200 salariés lyonnais. Messimi, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Donald Trump loue ses très bonnes relations avec Vladimir Poutine. Les deux dirigeants s'entretiennent en marge du sommet du G20 à Osaka au Japon. Et puis selon l'Elysée, 3 ou 4 pays membres du G20 pourraient être tentés de rejoindre la position des États-Unis sur le climat, ce qui affaiblirait donc le camp de ceux qui défendent l'accord de Paris. On va croiser les doigts ce soir pour nos Bleus, un quart de finale France-États-Unis au Parc des Princes, soirée spéciale des 20h sur Europe 1 avec Lionel Rousseau.
Et puis on sera en direct du Parc des Princes sur Europe 1 dès 17h tout à l'heure avec Mathieu Béliard pour une émission spéciale. Céline Dacosta a déjà mis ses lunettes bleu, blanc, rouge et son écharpe bleue. C'était le journal de Céline Kallmann. Merci Céline.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
À suivre, la politique, oui, avec Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel.
Marion Maréchal est invitée par le MEDEF à l'université d'été qui aura lieu fin août à Paris et c'est une invitation qui fait du bruit, voire même qui a du mal à passer.
On en parle dans un instant. L'économie avec Axel de Tarly. Bonjour Axel.
Bonjour Sébastien. Et Ford qui supprime 1 emploi sur 4 en Europe. Mais en fait, c'est toute l'industrie automobile qui est en danger.
Le duo Apathy-Tarly dans un instant sur Europe 1.
Très bon réveil à tous. Il est 7h37. Il est 7h38, Sébastien Krebs, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Fallait-il vraiment l'inviter? Le MEDEF a convié Marion Maréchal pour son université d'été qui aura lieu fin août. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne plaît pas à tout le monde, Jean-Michel?
Non, ça ne plaît pas. Alors pour être précis, c'est l'Express qui a révélé l'information hier et Marion Maréchal est invitée à participer à une table ronde intitulée, je cite, « La grande peur des malpensants ». Pourquoi les populistes sont-ils populaires? Alors ça ne passe pas. Au fond, c'est assez simple à comprendre pour deux raisons. La première, c'est une première. Aucune personnalité de l'extrême droite n'avait été invitée par le MEDEF. Et une première, ça froisse toujours l'étole. On a des habitudes, on les perturbe, donc il y a des critiques dans tous les sens. Et la deuxième raison pour laquelle ça ne passe pas, c'est que le MEDEF, qui sait quand même ce qu'il fait, On plaide de l'innocence ici et là, mais enfin, des innocents, il n'y en a pas tant que ça dans la vie. La deuxième raison, c'est que le MEDEF met les deux pieds dans le marigot politique en invitant Marion Maréchal. On voit depuis quelque temps déjà, singulièrement depuis les élections européennes, que toute une partie de la droite française, les Républicains, un peu déboussolés par leurs mauvais scores successifs, ont envie de faire une forme de lien avec l'extrême droite. Et ça passe par la personnalité qui est jugée la plus modérée, la plus fréquentable au sein du Rassemblement National, c'est Marion Maréchal Le Pen. Et donc, le MEDEF a l'air d'avaliser cette stratégie. Donc, évidemment, ça ne peut que susciter des débats. Sur le fond, quand même, est-ce que Marion Maréchal est vraiment plus modérée que sa tante Marine Le Pen? Il faut voir quelquefois ce que dit Marion Maréchal. Par exemple, l'oligarchie se dissimule derrière la Macronie. Déjà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, la formule Jean-Luc Mélenchon pourrait l'employer, Marine Le Pen pourrait l'employer, et Marion Maréchal l'emploie très souvent. Qui a dit « Les dirigeants britanniques et allemands défendent les intérêts de leur pays à Bruxelles, alors que les élites trahissent le peuple ?» Eh bien, c'est Marion Maréchal, qui est très anti-européenne, qui a un discours populiste extrêmement fort et qu'elle répète régulièrement. Et puis vous connaissez sans doute la théorie du grand remplacement, qui est une théorie complotiste islamophobe portée par la droite de l'extrême droite. Eh bien Marion Maréchal dit « Le grand rassemblement, ce n'est pas une idée stupide », alors même que Marine Le Pen est toujours à distance de cette idée. Donc je me demande, c'est juste un conseil à Geoffroy Roux de Bézieux, s'il cherche à inviter une personnalité modérée au Rassemblement National, il vaut mieux qu'il invite Marine Le Pen plutôt que Marion Maréchal, ex-Le Pen.
C'est dit, et c'est la position de Jean-Michel Apathy ce matin sur Europe 1. Axel de Tarlet, c'est à vous. Ford va supprimer 12 000 emplois en Europe. Et ça n'augure rien de bon, vous nous dites, pour les constructeurs automobiles.
Oui, Ford va mal, donc supprime un emploi sur quatre quand même en Europe. Mais en fait, vous avez raison, c'est toute l'industrie automobile qui va mal parce qu'elle est confrontée à une situation inédite, à savoir que partout dans le monde, ça n'était jamais arrivé, les ventes reculent. Donc les ventes baissent en Europe, ça c'est courant. Elles baissent aussi aux États-Unis. Et alors le phénomène nouveau, c'est que les ventes baissent aussi en Chine. Comme si on était arrivé au bout d'un cycle avec la voiture, qui serait devenu synonyme de trop de nuisances, trop de pollution, trop de bouchons, trop cher. Bref, et c'est dans ce contexte morose que cette industrie doit par ailleurs injecter des milliards et des milliards dans la voiture électrique, ne sachant même pas si, au bout du compte, les gens auront envie d'acheter ces voitures électriques. Parce que vous savez, la voiture électrique, on en parle beaucoup, mais on l'achète beaucoup moins. Vous savez, en 2018, la voiture électrique, ça a représenté seulement 1,4% des ventes. Et encore en France, ça se vend plutôt bien. Chez nos voisins, c'est encore moins. Donc vous voyez, cette industrie automobile, elle est en train de faire un véritable saut dans l'inconnu.
Ça veut dire que certains constructeurs pourraient disparaître complètement ?
Exactement. D'ailleurs, le cabinet AlixPartner vient de publier une étude sur le secteur en expliquant que, vu ce contexte que je viens de décrire, dans l'automobile, écrit le cabinet, il y aura des mariages et des enterrements. Et c'est d'ailleurs ce qui a poussé Jean-Dominique Sénard, c'est le nouveau patron de Renault, à vouloir fusionner avec Fiat, à vouloir se marier. Alors Jean-Dominique Sénard, qui sait de quoi il parle, parce que c'est l'ancien patron de Michelin. Et il a vu sidéré comment, en quelques années, des Chinois sortis de nulle part ont raflé un tiers du marché mondial du pneu. Alors Michelin, c'est le numéro un mondial du pneu, donc il peut s'en sortir. Mais dans l'automobile, les acteurs français sont plus petits et plus fragiles. Donc il faut se préparer à ce genre de tremblement de terre, s'unir, se marier. Parce que oui, dans l'automobile, il va y avoir des enterrements, donc mieux vaut célébrer un mariage.
Oui, on va souhaiter qu'il y ait plus de mariages que d'enterrements.
Voilà.
Merci beaucoup, c'était l'édito écho d'Axel de Tarlet. Bon week-end à vous. 7h43.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Allez, dans un instant, on revient sur ce match, ce choc France-États-Unis en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est ce soir à 21h. Et en attendant, je reçois une invitée exceptionnelle ce matin, Brandi Chastain. C'est une légende du foot féminin, double championne du monde avec l'équipe américaine. Elle est devenue une icône le jour où elle a retiré son maillot pour célébrer un but. Que pense-t-elle de notre équipe de France? On lui demande dans un instant.
Et les 7h44, les principaux titres à retenir ce matin, Sébastien Krebs.
Et on y est, l'heure de vérité pour les Bleus. En Coupe du Monde féminine, les Françaises affrontent en quart de finale ce soir les Américaines, triple championne du monde. Coup d'envoi, 21h au Parc des Princes, à suivre bien sûr en direct et en intégralité sur Europe 1. Un enfant de 6 ans grièvement blessé hier à Saint-Denis, il a été projeté à plusieurs mètres lors de l'ouverture d'une bouche à incendie. Aujourd'hui, les départements de l'Hérault, du Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône sont en vigilance rouge canicule. Jamais un tel niveau d'alerte n'avait été activé en France pour une canicule. 76 autres départements restent en vigilance orange. À la une également, le début du G20 à Osaka au Japon. Au menu, le commerce et bien sûr le climat. Emmanuel Macron a annoncé qu'il refuserait de signer le pacte entre l'Union européenne et le Mercosur composé du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay et du Paraguay si les Brésiliens se désengagent de l'accord de Paris.
Europe 1. À quelques heures du match France-États-Unis en quart de finale de la Coupe du Monde, vous recevez Sébastien, l'une des figures du foot féminin américain, l'ancienne joueuse Brandi Chastain, qui marqua le pénalty de la victoire et fut championne du monde en 1999.
Bonjour Brandi Chastain.
Good morning.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Bienvenue sur Europe 1. Vous serez dans les tribunes ce soir pour soutenir l'équipe américaine face à la France. Ce quart de finale France-États-Unis, c'est un peu une finale avant l'heure. C'est un match ici que tout le monde attend. C'est le cas aussi aux États-Unis ?
C'est le match dont je rêvais, bien sûr, voir la France jouer contre les États-Unis. En fait, je vois ça de deux manières. D'abord, je me dis que jouer à domicile pour les Françaises, ça leur donne un certain confort. Elles ont tout le pays derrière elles, elles ont leur famille, leurs amis, elles peuvent garder leurs habitudes, leur alimentation, elles connaissent tous les stades. Ça, c'est à leur avantage. Mais je vois aussi la pression qui pèse sur le pays hôte et le fait que ce qui se joue aussi, c'est le destin du foot féminin en France, qui peut exploser ou bien rester dans une certaine précarité si elle ne gagne pas la Coupe du Monde. C'est un peu ce qu'on ressentait, nous, en 99 aux États-Unis quand on a organisé le Mondial. C'est notre victoire cette année-là qui a levé tous les obstacles. Je ressens la pression que les Françaises peuvent avoir, mais je suis très excitée à l'idée de voir la France jouer contre les États-Unis.
Et comment vous la voyez, cette équipe de France ? Vous la craignez ?
Ah oui, ça va être un moment critique. J'aime beaucoup regarder l'équipe de France jouer. Leur défense est très solide. Quand vous avez une joueuse comme Wendy Renard avec une telle présence sur le terrain, un tel physique, c'est un sacré défi de battre l'équipe de France. Je leur souhaite vraiment de réussir. Bon, pas contre les Américaines quand même. Mais au-delà, elles vont influencer les prochaines générations. Les filles comme les garçons verront que le football est aussi féminin.
Et c'est exactement ce que vous avez fait, Brandi Chastain, influencer les générations futures. Céline le disait, vous êtes presque devenue une icône du foot féminin. On se souvient de vous pour une image. En 99, finale du Mondial, vous marquez le pénalty décisif qui vous donne la victoire. Et à ce moment-là, vous faites un geste qui va rester dans l'histoire. Vous retirez votre maillot pour célébrer le but et vous vous retrouvez en brassière. L'image a fait le tour du monde. Vous vouliez faire passer un message ce jour-là ?
Vous savez, au moment où j'ai marqué ce pénalty, je n'avais pas d'intention particulière. C'est une célébration assez classique, finalement. On a vu beaucoup de joueurs masculins retirer comme ça leur maillot, et puis peut-être que j'avais ça en tête à force de regarder des matchs depuis l'enfance. Mais plus le temps passe, ça fait maintenant 20 ans quand même, plus je vois ce geste différemment. Je suis devenue mère et même grand-mère récemment et je me demande ce que ça signifiera pour ma petite fille quand elle verra cette image. Et quel sens cette image a aussi pour mes deux fils. Ils ne voient probablement pas les femmes de la même façon que la génération de mon père, par exemple. Ils voient les femmes faire du sport, ils voient combien elles peuvent être fortes, puissantes, douées. Donc, cette image, elle a eu des interprétations différentes selon les époques. Et je crois que toutes ces interprétations sont importantes.
Alors aujourd'hui, vous entraînez des équipes de jeunes filles. C'est plus facile pour elles de pouvoir jouer au foot qu'à votre époque ?
Plus facile que ça ne l'a jamais été, probablement. Parce que notre équipe nationale a connu de grands succès et donc ça a eu un effet, ça a attiré les gens. Donc oui, pour vous répondre, je pense que oui, c'est plus facile.
Et ça peut même paraître surprenant pour nous en France, mais aux États-Unis, le foot féminin est devenu plus important encore que le foot masculin. Il y a 15 millions de joueuses, c'est énorme. L'équipe nationale féminine est d'ailleurs bien meilleure que l'équipe masculine. Comment vous expliquez ça ?
Le fait qu'il y ait plus de filles que de garçons qui jouent au foot s'explique assez facilement. Quand les hommes ont commencé à jouer au foot aux États-Unis, on était déjà en retard parce que le reste du monde y jouait déjà depuis très longtemps. Mais si vous regardez l'histoire du foot féminin, on a commencé au bon moment. On a même lancé le mouvement. Donc, oui, nous avons toujours eu de l'avance. Et en plus, nous avons une loi qui date de 1972 et qui oblige les institutions à dépenser les fonds publics de façon équitable dans tous les sports, entre les équipes masculines et les équipes féminines. Et ça, ça a permis aux filles d'obtenir des bourses pour jouer dans les équipes universitaires. Le sport a grandi parce qu'il a été rendu plus accessible et parce qu'on a donné beaucoup plus d'opportunités aux filles.
Et le résultat, Brandi Chastain, c'est le très haut niveau de votre championnat universitaire. L'équipe américaine que la France va affronter ce soir, c'est la meilleure du monde au classement FIFA. Les femmes ont de meilleurs résultats, elles remplissent plus les stades. Mais il y a quand même un problème, c'est que vous êtes toujours moins bien payé que les joueurs masculins, même aux États-Unis.
Oui, on est moins bien payé. Et d'ailleurs, on mène en ce moment une action en justice contre la fédération pour exiger l'égalité de rémunération entre les joueurs et les joueuses des équipes nationales. Mais vous savez, le reste du monde se bat aussi avec ce sujet. Les femmes n'ont pas été historiquement, culturellement, économiquement autant soutenues que les hommes. Et ce n'est pas un problème seulement américain, c'est un problème mondial. Mais nous avons l'opportunité d'être des pionnières. Le football peut provoquer le changement. Quand nous faisons quelque chose, les gens nous suivent parce qu'ils sont passionnés par le foot. Ils sont attachés aux valeurs de ce sport. Alors je pense que ce procès de l'équipe féminine contre la fédération américaine peut devenir un déclencheur qui forcera les autres sports, les autres fédérations, à avancer dans la bonne direction.
Et il y a justement une joueuse norvégienne, Ada Hegerberg, elle a été élue meilleure joueuse du monde, elle a obtenu le Ballon d'Or, et pourtant on ne la voit pas dans ce mondial. Elle a refusé d'y participer pour protester justement contre cette discrimination salariale. Qu'est-ce que vous pensez de ce geste ?
C'est triste que la meilleure joueuse du monde, gagnante du Ballon d'Or, ne participe pas, juste parce qu'elle doit faire passer un message. Mais c'est le genre de choses que les femmes ont toujours dû faire dans l'histoire. Des sacrifices pour se faire entendre. Alors que nos collègues masculins, eux, n'ont jamais eu besoin de recourir à de tels stratagèmes. Moi, j'aime ce cadeau qu'elle offre aux générations futures. Elle avait toute sa place sur le terrain, parce qu'elle est la meilleure du monde. Et malgré tout, elle est prête à abandonner la Coupe du Monde pour faire passer son message. Et c'est un geste vraiment très fort.
Pour terminer, je voudrais revenir au match de ce soir. Brandi Chastain, votre équipe américaine, elle a toujours été sur le podium à chaque mondial féminin depuis sa création en 1991. Trois fois vainqueur. Alors j'imagine que si vous étiez battu ce soir en quart de finale face à la France, ce serait quand même un sérieux revers.
Alors là, vous savez, tout est possible. Hein. Même les meilleures équipes perdent des matchs. On a déjà vu ça dans le passé. Et ce que j'aime dans cette Coupe du Monde, maintenant qu'on arrive au match éliminatoire, c'est que n'importe quelle équipe peut gagner. Et ça, ça dit beaucoup du niveau que le foot féminin a atteint aujourd'hui. Alors oui, j'ai vraiment hâte de voir ce quart de finale, parce que je pense que ça va être le match le plus épique de ce mondial. Football matches that
we've seen on the World Cup stage. Allez, un pronostic peut-être pour ce soir?
Je vais soutenir mon équipe, les rouges, blancs, bleus. Mais comme on a les mêmes couleurs, je peux aussi dire que les bleus, blancs, rouges vont gagner. Et finalement, je suis sûr de ne pas me tromper.
Eh bien, on va dire comme vous. Alors, allez, les bleus, blancs, rouges. Merci, Brandi Chastain. Je vous souhaite un bon match ce soir au Parc des Princes.
You are more than welcome. Merci.
Et je remercie, bien sûr, Benoît Clerc qui assurait cette liaison lorsque nous avons enregistré cet entretien. C'était il y a quelques jours depuis la Californie.
Et on sera tous derrière notre équipe de France ce soir. Venez les encourager avec l'équipe d'Europe 1 Sport, son capitaine Lionel Rousseau, dès 20h au studio Belmar. Inscription sur la page du club Europe 1.
Et en attendant, journée spéciale sur Europe 1 dans toutes les tranches d'information. Et dès 17h, Mathieu Béliard en direct depuis le Parc des Princes pour l'avant-match.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
À suivre, Sébastien.
À suivre, nouveau record de chaleur attendu aujourd'hui en France. Vigilance rouge dans 4 départements du Sud-Est. Et parmi les personnes les plus exposées, il y a les sans-abri. Reportage à suivre dans le journal de 8h. Et puis dans une minute, un récit complètement fou. L'épopée de James Brown au Festival des Vieilles Charrues. Ce sera la petite histoire de Jean-Philippe Ballas.
On reste sur Europe 1, il est 7h54. Il est 7h56, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Sébastien.
Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour à tous.
De la musique pour terminer la semaine avec le Festival des Vieilles Charrues, 28e édition. C'est dans 3 semaines, du 18 au 21 juillet. Europe 1 est partenaire. Et ce matin, vous nous racontez une histoire, l'histoire rocambolesque de l'une des premières grandes affiches du festival.
Ouais, 1997, en effet, cette année-là, les Vieilles Charrues réussissent un joli coup. Faire venir dans ce petit bout de Finistère une star américaine à talonnettes, messieurs, dames, le parrain de la soul en personne. One, two, three, four. Et ouais, James Brown va venir à Carhaix, c'est pas une blague. Seulement, rien ne va se passer comme prévu. D'abord, les musiciens, censés arriver en bus, ils vont se perdre sur les routes bretonnes et ne déballeront leurs instruments qu'au tout dernier moment. Et puis surtout, il y a plus problématique encore. Où est passé James Brown? Il n'est pas là, lui non plus. Il est à 360 km à Deauville. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Deauville ? Bah, James Brown doit aussi donner un concert et manifestement, il s'est un peu mélangé les pattes d'Ev dans son agenda. Le temps presse et c'est en taxi qu'il va tracer la route de la Normandie à la Bretagne jusqu'au pied de la Seine. Le show aura finalement bien lieu in extremis. On imagine que les organisateurs ont perdu quelques litres d'eau. Voilà, aujourd'hui, les Vieilles Charrues sont un festival parfaitement rodé, mais toujours dans un esprit très simple, éclectique, familial, pas du tout grosse tête, c'est ça qu'on aime. Pourtant, il y a de quoi avoir le tournis encore cette année. Il y aura Nile Rodgers, vous entendez sa guitare juste derrière. Aussi Iggy Pop, Tears for Fears, les Black Eyed Peas, Clara Luciani, Jeanne Haddad, entre autres, beaucoup, beaucoup d'autres. Du 18 au 21 juillet, on me dit dans l'oreillette d'ailleurs qu'il reste quelques places, dépêchez-vous. Il y aura même Christine and the Queens, oui, vous savez quoi, vive le Finistère.
Je vais marcher.
Les Vieilles Charrues, à partir du 18 juillet, avec Europe 1, ils doivent en avoir deux ou trois des histoires avec les stars qui se sont bousculées sur leur scène aux Vieilles Charrues. C'était la petite histoire de Jean-Philippe Ballas.
À suivre le journal de David Doucan, tout de suite à Météo, Laurent Cabrol, Sébastien.
C'est notre James Brown, à nous, ça, Laurent Cabrol.
Ne me poussez pas dans mes retranchements.
Une chanson.
C'est jamais pour vous faire un coup de James Brown. Bon alors, soyons sérieux une seconde, parce que là c'est vraiment dramatique ce qui se passe, enfin dramatique, n'exagérons rien, mais enfin, très préoccupant, puisque nous allons vivre la journée certainement la plus chaude de cet épisode de canicule. Donc, les moins impactés, Cotentin, Bretagne, Loire-Atlantique, Vendée, Aquitaine, Côte-Charentaise et Béarn, tout simplement parce que vous êtes en bord de mer et il y a des entrées maritimes en ce moment, et cela permet de rafraîchir un petit peu l'atmosphère. Mais ces entrées maritimes vont se disperser et la chaleur va quand même ressurgir. En ce qui concerne les moins chanceux, le Gard, le Vaucluse, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, vous le savez, là, il y a des vigilances rouges, ça veut dire qu'il ne faut vraiment pas sortir de chez soi, et c'est ce qu'il y a de plus dangereux dans ces contrées. Partout ailleurs, ce sera une journée normale, ordinaire, j'allais dire caniculaire, mais ordinaire, avec des valeurs que je vais égrener devant vous rapidement. 31 à Colmar cet après-midi, 32 à Paris, 32 à Épinal, 33 à Nancy, 34 à Reims, 35 à Nantes, Toulouse, Rennes, Poitiers, Limoges, Albi, 36-37, 38 à Marseille et Lyon, 39 à Bourges, 40 à Montluçon, 42 à Montpellier et Perpignan, 44 à Avignon et 45 à Nîmes. Ce sont bien sûr des prévisions à l'ombre. Espérons qu'elles ne seront pas, battues, ces prévisions, ou j'espère quand même qu'elles seront même moins importantes. On verra ça tout à l'heure.
45 degrés à l'ombre. Merci beaucoup, Laurent. Courage pour cette dernière chaude journée de la semaine. Merci beaucoup de nous rejoindre sur Europe 1.
En ce vendredi matin, bienvenue. Il est 8h. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Sébastien Krebs.
Et avec David Doucan pour le journal de 8h. Bonjour David.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
L'actualité du jour.
Ce sera difficile, mais elles peuvent le faire. C'est un quart de finale de Coupe du Monde. Les Françaises affrontent les Américaines. C'est ce soir, 21h au Parc des Princes. La France suffoque depuis 5 jours. Contrairement aux idées reçues, la canicule est plus dangereuse que le froid pour les sans domicile fixe. Reportage dans un instant. Et puis, nous serons au Japon. Le G20 a officiellement commencé, réunion sous haute tension. Au cœur des désaccords, la question du climat.
À 8h12, Vincent Hervouette, double attentat en Tunisie. Et le même jour, le président qui fait un malaise, il est entre la vie et la mort. 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Roxana Maraciné, à nous, la ministre des Sports.
Europe 1.
Si c'était facile, ce ne serait pas la Coupe du Monde. Ce soir, au Parc des Princes à Paris, non pas un match, mais un choc. Les Françaises affrontent les Américaines, c'est un quart de finale. Les États-Unis sont favoris de la compétition, mais les Bleues sont puissantes et jouent à domicile. Cyril de la Morinerie.
Sur le papier, les Américaines partent avec une longueur d'avance. Triple championne du monde, tenante du titre, elles n'ont jamais perdu face aux Françaises en Coupe du Monde. Mais les Américaines, comme les Françaises, ont souffert en huitième de finale. Et surtout, les Bleus, preuve de leur progrès constant, ont battu les redoutables Américaines en match amical. C'était en janvier dernier, ce qui donne beaucoup d'espoir à la sélectionneuse Corinne Diacre.
Ce jour-là, on les a quand même battus. Ça doit être une force, malgré tout, pour nous aujourd'hui, de se dire « ben, rien n'est impossible ». Voilà, donc à partir de là, moi j'ai envie de dire, quand on est capable de faire les choses une fois, on devrait être capable de les répéter, donc j'espère que ce sera le cas demain.
Et on se souvient du discours mobilisateur de Didier Deschamps, juste avant l'exploit face à l'Argentine, il y a un an en Coupe du Monde. Battez-vous sur chaque ballon, soyez solidaires. Tout à l'heure, Corinne Diacre devra à son tour, avec ses mots, galvaniser ses joueuses, car il s'agit bien ce soir d'un tournant, une défaite, et le foot féminin français ferait alors du surplace. En revanche, si les Françaises battent ce soir cet adversaire que personne ne veut affronter, elles tiendront leur match référence et tout deviendra possible.
Cyril Delamorinerie du service des sports d'Europe 1. Alors pourquoi sont-elles si fortes au fond ces Américaines? Parce que aux États-Unis, historiquement, les filles jouent autant, voire davantage, au soccer que les garçons. Reportage de notre correspondant à New York, Xavier Yvon.
Il n'y a pas beaucoup de terrains de foot dans le monde avec une vue pareille. Des pelouses synthétiques sur les quais de Brooklyn face au gratte-ciel de Manhattan. On entend les hélicoptères et les sirènes de bateaux, mais ça ne déconcentre pas Emilia, 18 ans, très sérieuse à l'entraînement avec ses coéquipières du Downtown United. J'ai joué au foot toute ma vie, dit-elle. J'aime tellement ça que vous voyez, je suis là un soir de semaine. Son entraîneuse est une Anglaise. À son arrivée aux États-Unis, Hilary Hunchal a été frappée par l'engouement pour le soccer au féminin. Ici, c'est un sport jeune, explique-t-elle. Alors, quand ça a commencé, il n'y avait pas de précédent qui disait que c'était un sport de garçon. Les filles n'ont pas eu à casser autant de barrières pour jouer. Résultat, le réservoir de joueuses est plus important ici qu'ailleurs et c'est pour ça que l'équipe nationale américaine domine le monde du foot féminin. Pourtant, même ici, les joueuses professionnelles sont moins bien payées que les hommes, au point qu'elles ont porté plainte contre leur fédération pour discrimination. Évidemment, c'est horrible, réagit Emilia, la jeune footballeuse. Elle devrait être payée plus que les hommes. Elles ont déjà gagné la Coupe du Monde et les hommes, eux, n'étaient même pas qualifiés l'an dernier. Avec son club, Emilia s'envolera pour la France dans quelques jours, assister aux demi-finales de la Coupe du Monde. Et c'est sûr, ce sont les Américaines qu'elle verra jouer après leur victoire aujourd'hui contre la France.
Et Europe 1, tout en bleu hein, aujourd'hui, journée spéciale. À partir de 17h, Mathieu Béliard aux abords du Parc des Princes pour une émission spéciale. Et vous êtes invité ici hein, dans notre studio Belmar pour regarder le match sur écran géant. Coup d'envoi 21h. Match à suivre évidemment en intégralité et en direct sur Europe 1.
Le deuxième titre de cette actualité, c'est bien sûr la canicule. Le record de chaleur peut être battu aujourd'hui. Il date du 12 août 2003. 44,1 degrés à l'époque à Saint-Christol-les-Alès et Canquérac dans le Gard. Le Gard placé en vigilance rouge ainsi que l'Hérault, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône. C'est une première dans l'histoire de Météo France. 76 autres départements restent en vigilance orange. Cela fait maintenant 5 jours que la France suffoque et c'est très dur pour nos concitoyens sans domicile fixe. Contrairement aux idées reçues, la chaleur est plus dangereuse que le froid pour les sans-abri. Alors la Croix-Rouge multiplie les maraudes. Reportage de Pierre Herbulot à Créteil dans le Val-de-Marne.
Le hall d'un centre commercial, le sous-sol d'un parking. Pendant la canicule, les bénévoles de la Croix-Rouge cherchent les endroits les plus frais pour trouver les sans-abri.
Bon, on est parti.
C'est à l'ombre d'un immeuble qu'ils distribuent à Hélène, 57 ans. Une grande bouteille d'eau, une casquette et un kit d'hygiène.
Pour moi, c'est très difficile. Tout à l'heure, j'étais en plein soleil. On en danger quand même.
Comment vous faites? Vous cherchez des endroits frais? C'est ce que vous disiez tout à l'heure?
Au parking. Mais il ne faut pas que je tombe sur les vigiles. On est obligé de se cacher. Moi, j'essaie de me protéger, mais si on se fait virer de quelque part, dans la rue.
Encore plus que les périodes de grand froid, les fortes chaleurs tuent les SDF. Alors Moncef, le chef de l'équipe, ne compte pas ses heures de bénévolat.
Bah, ils se déshydratent facilement, ils peuvent avoir une température assez élevée, donc il faut rester vigilant. Donc s'enquérir de leur état, vérifier que tout va bien, s'assurer qu'ils arrivent à trouver de la fraîcheur dans un parc, dans un centre commercial. Voilà.
Et donner encore et encore de l'eau, près de 20 litres en 2 heures. Leurs bouteilles, Hélène et les autres sans-abri sont obligés de les rationner pour tenir pendant cette semaine suffocante. À la nuit tombée, le thermomètre affiche toujours plus de 30 degrés.
Reportage de Pierre Herbulot pour Europe 1. Jean-Claude Roman est sorti de prison cette nuit après 26 ans de détention, libération conditionnelle sous surveillance électronique. L'homme, aujourd'hui âgé de 65 ans, s'était fait passer pour un faux médecin, vous vous souvenez de cette affaire, et avait été condamné à la perpétuité pour avoir assassiné son épouse, ses 2 enfants et ses parents en 1993.
Il est 8h06 sur Europe 1, l'actualité à l'étranger à présent avec le G20 qui a commencé au Japon cette nuit.
Oui, à Osaka, où la question de l'environnement sème la discorde. Emmanuel Macron a annoncé qu'il refuserait de signer le pacte commercial entre l'Union européenne et le Mercosur si le Brésil se désengageait de l'accord de Paris sur le climat. Plus généralement, le président français fait de l'écologie une donnée non négociable. Les précisions de notre envoyé spécial au Japon, Jean-Rémy Baudot.
Les États-Unis ont déjà annoncé leur retrait de l'accord de Paris, mais d'autres dirigeants pourraient rejoindre Donald Trump. On me dit que le Brésil hésite, nous a confié le président Macron. La Turquie se poserait aussi des questions, notamment pour des raisons financières. Dans les coulisses du G20, on s'active donc pour fédérer. Les pays européens vont se coordonner dans la matinée sur cette question. D'autres, comme le Canada, devraient les rejoindre. Cette semaine, la France a posé une ligne rouge. Elle ne signera pas un texte qui ne ferait pas référence aux accords de Paris. « Je ne veux pas d'un affaiblissement collectif de nos engagements », martèle Emmanuel Macron, alors qu'il a récemment refusé de négocier un accord commercial avec les États-Unis sur fond de désaccords climatiques. Jugé parfois insincère sur l'écologie en France, le chef de l'État jouit toujours d'une réputation de défenseur du climat sur la scène internationale. Lui qui dit, je cite, « avoir la foi du converti récent », va pendant 2 jours demander des efforts à ses homologues. « L'histoire nous jugera », répète-t-il. Osaka, Jean-Rémy Baudot, Europe 1.
Europe 1.
À suivre dans le journal de David Doucan, l'histoire dramatique d'une jeune chercheuse contaminée lors d'une manipulation. Elle est décédée la semaine dernière de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Sa famille attaque son employeur, l'INRA, en justice. À tout de suite.
Il est 8h09, votre matinale info, Sébastien Krebs.
La suite du journal de David Doucan avec cette histoire tragique.
Oui,
David.
Celle d'une jeune chercheuse de 33 ans, Émilie, est décédée la semaine dernière de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les symptômes étaient apparus il y a 2 ans, mais la contamination remonte à bientôt 10 ans. Une maladresse pendant une expérience dans un laboratoire de l'INRA. La famille de la jeune femme a décidé de porter plainte contre l'Institut de recherche agronomique. Écoutez le témoignage du veuf d'Émilie. Il s'appelle Armel et s'est confié à Pierre de Cossette pour Europe 1.
Je suis en colère, pas par rapport à l'INRA et la communauté scientifique, je suis en colère par rapport à un certain laxisme au niveau des règles de sécurité. Et la chose la plus révoltante, de toute façon, c'est qu'à l'époque, mon épouse était âgée de 25 ans, était en CDD, n'avait aucune expérience en laboratoire confiné. On l'a mise dans un laboratoire confiné sur des souches de prions humains. C'est-à-dire que vous n'avez même pas la barrière d'espèce en travaillant sur une autre espèce animale, pour pouvoir la protéger. S'il y a un accident, c'est une souche humaine, vous pouvez directement être contaminé. Je ne comprends pas qu'au niveau de la réglementation, on autorise des jeunes sans formation, sans expérience, à travailler sur des choses aussi dangereuses et fatales dans ce contexte. Donc il y a 2 combats. Il y a un combat pour mon épouse, pour lui rendre justice, et un combat pour l'ensemble de la communauté scientifique qui est confrontée à ces problèmes. Ça ne vaut pas le coup pour un 1 500 € par mois de risquer sa vie sur des choses comme ça, oui.
Témoignage recueilli par Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1.
Et on termine votre journal, David, par une page culture.
Oui, si vous aimez la danse, une seule chose à faire, vous foncez à l'Opéra Garnier à Paris. Il revient d'une retraite anticipée. Le chorégraphe suédois Mats Ek propose 2 créations, un boléro et une reprise de Carmen, Diane Chenouda.
Ça commence très fort avec une Carmen rouge sang, cigare aux lèvres, jambes écartées, femme libérée, formidablement jouée par la danseuse étoile Amandine Albisson.
Cette Carmen, elle est passionnée, elle est fière, elle est libre, c'est Carmen.
Et cette Carmen ultra moderne sollicite beaucoup les danseurs.
L'investissement physique est énorme. Il est de 300% à chaque pas, c'est que des mouvements à l'extrême. C'est des grandes extensions, des grands pliés, donc ça fait très mal aux cuisses. Et c'est vrai que les premières semaines où on répète, on a du mal à descendre les escaliers ou même on a du mal à s'asseoir tellement on a des grosses courbatures et que ça fait mal.
Danse sensuelle et exigeante que l'on retrouve dans la 2e création. Un duo sensible sur la vie de couple avec une Aurélie Dupont et son danseur exceptionnel de délicatesse. Puis c'est le bouquet final avec un boléro décoiffant et son crescendo intense qui colle à la danse endiablée.
Diane Chenouda du service culture d'Europe 1, le boléro et Carmen à l'affiche de l'Opéra Garnier à Paris, c'est jusqu'au 14 juillet.
Et c'était le journal de David Doucan. Bon week-end David.
Bon week-end à vous.
La matinale d'Europe 1.
Sébastien Krebs.
Il est 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouette.
Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Céline, bonjour Sébastien, bonjour à tous.
C'est un jeudi noir qu'a connu la Tunisie, hospitalisation en urgence de son président. Et le même jour, un double attentat dans la capitale qui a tué un policier. Et vous nous dites, on se demande ce qui est le plus grave.
Les deux événements ont un point commun, ils déstabilisent un pays qui reste fragile. Alors les 2 kamikazes ont entraîné un policier dans la mort, ils ont laissé 8 blessés derrière eux. L'État islamique revendique, mais on dirait du terrorisme artisanal comparé à 2015, les carnages au musée du Bardo, sur une plage de Sousse, dans un quart de militaire. En 2015, les Tunisiens étaient traumatisés, les touristes en fuite, l'économie en chute libre. Et puis l'État a réagi et depuis 4 ans, la lutte antiterroriste a marqué des points. La menace djihadiste est confinée, loin de la capitale. Et elle ne pesait plus sur le moral des Tunisiens. ni sur le moral des étrangers qui ont retrouvé leurs chaises longues et le soleil bon marché. Hier, les Tunisiens n'étaient pas accablés, ils étaient en rage, ou ils étaient aux terrasses des cafés, les boutiques sont restées ouvertes, il n'y a pas de panique chez les tour opérateurs, les kamikazes n'ont pas réussi à dynamiter la saison. Mais l'alerte rappelle qu'il y a entre 3 et 5 000 Tunisiens en Syrie, en Irak, dans le chaos libyen à côté, et que tous ne seront pas pendus ou tués au combat. Tôt ou tard, les revenants reviendront. C'est une première hypothèque sur l'avenir. Et l'autre, c'est la succession de Béji Caïd Essebsi, le président de 92 ans.
Oui, le président qui a fait un grave malaise hier. Il est à l'hôpital militaire dans un état stable, c'est tout ce qu'on sait.
Ben, le secret d'État plus le secret médical, rien de filtre. Les dirigeants islamistes, des dirigeants, ont relayé la rumeur de sa mort. L'impatience rend bavard. Un familier du palais a balayé leur racontard en disant « S'il est mort, personne n'ose le lui annoncer ». Alors c'est vrai, Béji Caïd Essebsi a une telle personnalité qu'il est difficile de lui présenter les vérités qu'il ne veut pas entendre. À 92 ans, il a décidé de ne pas se représenter à la présidentielle. Il l'a annoncé juste après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Il n'y a pas que les migrants, les leçons aussi traversent les frontières. Mais le Tunisien, pas plus que l'Algérien, n'a préparé sa succession. Il a laissé faire l'entourage. Le grand âge aime ses habitudes. Le sérail en profite. Les épouses couvent leur progéniture. Et c'est ainsi que s'est dessinée une succession dynastique. Tout comme Abdelaziz protégeait son cadet Saïd Bouteflika, Béji a laissé son grand-fils, Hafed Caïd Essebsi, gouverner le parti comme si c'était l'entreprise familiale dont il allait hériter. Un Caïd pour en remplacer un autre. Alors ce népotisme a provoqué une scission, une guerre des chefs inexpiable avec le Premier ministre, l'atomisation du camp moderniste, les islamistes du parti Nada qui soutiennent le gouvernement comme la corde le pendu regardent les laïcs se débattre, ils sont prêts à ramasser la mise, rendez-vous à l'automne, législative et présidentielle. La transition s'annonce chaotique, il n'y a pas que le président qui est hospitalisé, c'est la démocratie tunisienne qui est aux urgences.
L'édito international, le point de vue de Vincent Hervouet chaque matin sur Europe 1. Merci.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Dans deux minutes, vous restez avec nous, c'est l'interview politique d'Europe 1 avec vous, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Audrey.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Les Bleus affrontent les États-Unis en quart de finale ce soir. Céline a tout l'équipement. Quel est son pronostic, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, sera mon invitée.
Le même que celui de Brandy Chastain, je pense. Les Bleus, Blancs, Rouges vont gagner, mais on ne sait pas lesquels.
Forcément.
8h15, à tout de suite.
Un bon réveil sur Europe 1, il est 8h15. Il est 8h17, Sébastien Krebs.
Et la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, est avec nous en studio. Elle est votre invitée, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Roxana Maracineanu. Bonjour. Vous serez où ce soir pour voir le match ?
Dans les tribunes, bien sûr. J'ai suivi les filles depuis le début et puis c'est vrai qu'on va assister à un très très beau match avec beaucoup d'enjeux parce que si les filles passent cette étape, on a des grandes chances qu'elles aillent au bout.
Quart de finale, quel est votre pronostic ?
Le dernier match que j'ai vu contre les États-Unis, c'était 3-1 pour la France. Donc si on n'est pas loin de ça, ce serait super.
Allez, 3-1. Le dernier match des Bleus a réuni 12 millions de téléspectateurs. Vous aussi, vous avez été surprise par l'engouement du public ?
J'étais ravie, pas surprise, parce que je sais que si on ose laisser la place aux femmes, si les médias diffusent du sport féminin et si les filles s'engagent comme elles se sont engagées dans cette compétition avec le sourire, la sérénité, ce qu'elles sont en fait, je suis sûre que ça attire du monde, et parce que je suis une femme et je sais qu'en tant que spectatrice et amoureuse de sport, j'ai aussi envie de voir des femmes sur le terrain et dans les salles de sport. Donc voilà, c'est normal, j'allais dire juste et normal, mais c'est vrai que c'est surprenant et je remercie les diffuseurs qui ont choisi de le faire en clair, d'avoir eu cette audace.
En France, l'affluence moyenne pour un match de première division féminine est de 700 spectateurs contre 23 000 en moyenne pour un match de Ligue 1. Pensez-vous qu'avec la Coupe du Monde, le foot féminin va gagner un nouveau public ?
C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un pratiquant sur 10 au football qui est une femme. Donc voilà, vous voyez une marge de progression énorme. Et ce qu'on espère, c'est que cet effet sur la vitrine, aujourd'hui, les filles de l'équipe de France se traduisent vraiment dans les faits dès la rentrée, dans les petites associations, dans les clubs, où j'espère qu'on fera en sorte d'accueillir toutes les filles qui se présenteront. Et puis qu'on fera le décompte à la fin du mois de septembre pour voir combien de petites filles
ça frémit déjà. Ouais. Si les Bleus gagnent la Coupe du Monde, elles toucheront une prime de 40 000 euros, alors que leurs homologues masculins ont touché 350 000 euros lorsqu'ils ont gagné l'an dernier. C'est du sexisme ou c'est la loi du marché?
Bah, vous voyez, c'est le même rapport, presque 1 pour 10, au niveau des primes aussi. Si on veut que ça change, il ne faut pas le prendre comme un fait, mais une conséquence de la non-professionnalisation encore des filles. Il faut que beaucoup plus de clubs, comme le fait aujourd'hui l'Olympique Lyonnais, s'engagent à rendre ce sport professionnel, à payer les filles, déjà à les payer, et puis après à les payer de mieux en mieux. On a vu que la Division 1, ça y est, a trouvé son sponsor en naming, donc ça va déjà apporter un souffle nouveau au foot féminin. Et puis, on espère que ça continuera à être diffusé en clair. C'est sûr que tous les matchs, c'est pas la Coupe du Monde. On n'a pas non plus les États-Unis qui sont là, l'Allemagne. Donc il faut des grands événements comme celui-là. Mais après, il faut que ça dure toute l'année aussi. Ce serait bien.
Alain Finkielkraut s'est attiré les foudres de bon nombre de personnes en déclarant qu'il n'aimait pas le foot féminin. Il y voit une volonté idéologique quasiment de nier la différence entre les hommes et les femmes. L'égalité passe-t-elle par l'effacement des genres, selon vous ?
C'est vrai qu'en regardant le foot au début, on se dit il faut que ce soit traité de la même manière que le foot pratiqué par des hommes. Et plus ça va, moi j'ai regardé tous les matchs et je me dis qu'il y a quand même une différence. Hein. Il y a une différence de jeu, il y a des phases de jeu qui n'existent pas dans les matchs masculins aujourd'hui. Quand je suis le match et que je me dis mince, ça va être la mi-temps, vite, il faut qu'on marque. En fait, il y a 26 minutes qui sont passées systématiquement. Donc il y a aussi peut-être une réflexion à avoir sur l'adaptation des règles du jeu, des terrains peut-être. C'est vrai qu'il faut penser à adapter ce qu'on fait entre les hommes et les femmes, pas en moins, mais différemment. Maintenant, c'est sûr que c'est des choses différentes, mais ça doit être traité de la même manière, parce que les hommes et les femmes doivent être traités de la même manière dans notre société, même si les différences doivent être préservées.
Roxana Maracineanu, à nous, lundi dernier, Agnès Buzyn a déclaré qu'elle était inquiète en voyant nos concitoyens qui minimisent la canicule et continuent à faire du sport comme si de rien n'était. Avez-vous pensé, par exemple, à reporter le match de ce soir à cause des chaleurs qu'il y a en France en ce moment ?
On a passé comme consigne, effectivement, aujourd'hui et tout ce week-end, de réduire les compétitions, de les placer à des horaires, justement, où il va faire plus frais, comme ce soir, on peut penser qu'il va faire... Enfin, il va faire plus frais que dans la journée, aujourd'hui, et on...
Le match ce soir, il était exclu de le repousser, de toute façon.
On a pris les dispositions nécessaires pour que les filles puissent s'hydrater à intervalles réguliers. Il y aura des pauses pendant le match. Les spectateurs seront autorisés à rentrer avec leurs bouteilles d'eau dans le stade pour pouvoir s'hydrater correctement. Et de manière générale, on a fait passer comme disposition que les compétitions soient annulées ou reportées à des horaires plus frais dans le week-end. Et ces conseils de vigilance individuelle, mais aussi citoyenne, qu'on fasse attention à la personne en situation difficile ou fragile qui est à côté de nous, nos voisins, pour pouvoir leur faire passer ces consignes de sécurité, juste de bon sens, de ne pas faire d'activité physique. Quand on va aller vers des points d'eau, parce qu'on va avoir envie de se rafraîchir, toujours faire attention avec ses enfants et les aînés aussi, d'être toujours dans une position de surveillance et de vigilance citoyenne.
L'un des principaux risques liés à la canicule, c'est que la chaleur donne envie de se baigner. Sur les 1650 noyades recensées en 2018, un quart concernait des enfants de moins de 6 ans. Alors, faut-il apprendre aux enfants à nager avant même leur entrée en primaire? C'est ce que vous souhaitez?
Oui, c'est la mission principale que j'avais en arrivant au ministère des Sports, lancer un grand plan de lutte contre les noyades, puisque l'année dernière, avec les chiffres, on a vu que les deux populations les plus sensibles, c'est les moins de 6 ans et nos aînés de plus de 60 ans. Donc aujourd'hui, on s'attaque déjà depuis le mois d'avril, on a lancé un plan aisance aquatique avec d'une part la volonté de diffuser largement auprès des parents les bons gestes à avoir avec ses enfants quand on va en piscine. On a initié une séquence de 7 tutoriels qu'on peut retrouver sur aisanceaquatique.fr pour savoir quoi faire dès le plus jeune âge, dès 4 mois, une fois les vaccins faits, ce qu'on peut faire avec son enfant en piscine pour faciliter l'apprentissage.
Et ce que vous souhaitez, c'est qu'on apprenne aux enfants à nager dès l'âge de 3 ans, plus tôt.
Hein. Voilà, derrière, ça va se décliner en un changement de l'organisation de la natation scolaire. Aujourd'hui, elle a lieu entre 6 et 10 ans, principalement. C'est là qu'on met le paquet. Nous, on veut que ça se passe entre 3 et 6 ans. Et puis derrière...
Dès le mois de septembre.
Voilà, dès le mois de septembre.
Expérimental.
Sur des territoires qui vont se positionner parce qu'ils voudront et pourront faire de la place dans leur piscine pour ces petits-enfants dès la maternelle. Et puis sur les 6-10 ans, on a encore un gros effort à faire parce que encore trop peu d'enfants savent nager vraiment. Donc il va falloir travailler en lien avec le mouvement sportif, les clubs de natation, les centres de loisirs et l'école.
Roxana Maracineanu, 18 mois après son dernier combat, Teddy Riner va faire son retour sur les tatamis le 7 juillet à Montréal. Fin août, il tentera de décrocher son 11e titre de champion du monde. Vous croyez qu'il va le remporter ?
Oui, il nous l'a fait chaque année quand même, ouais, hein, parce que ouais. Il a l'habitude effectivement de se reposer un certain nombre de mois, et puis après il revient juste à temps pour pouvoir reconquérir ce titre mondial. On a vu aussi ce phénomène puisqu'on est à un an des Jeux de Tokyo avec Florent Manaudou en natation, pareil ce champion olympique qui revient à l'entraînement. C'est des gens hors normes quand même, c'est des sportifs. Voilà, imposants, avec des qualités physiques extraordinaires par rapport à leurs adversaires. Et c'est vrai qu'ils ont peut-être besoin de moins d'entraînement que le tout venant pour arriver à des niveaux extraordinaires de résultats.
Vous croyez qu'il va finir ministre des Sports, Teddy Riner ?
En ce moment, c'est très couru, hein ?
Oui. N'est-ce pas ? Merci, Roxana Maracineanu. Merci à vous.
Et merci, Audrey Crespo-Mara, pour l'interview politique. Très bon week-end à vous. Et puis, on croise les doigts pour les Bleus ce soir. La politique sur Europe 1 ce week-end. Gérard Collomb sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews. Les Échos, c'est dimanche, bien sûr, à partir de 10h.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol et l'essentiel de l'info. 8h30, la revue de presse de David Abiker. Et puis à 8h35, on revient sur ce quart de finale France-États-Unis. Le journal de la Coupe du Monde féminine avec Jérôme Lacroix.
L'essentiel de l'actualité, mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol.
Oui, Laurent, la journée va encore être extrêmement chaude. On a quatre départements en rouge. Qu'est-ce qui va se passer les jours à venir ? Est-ce que ça va enfin baisser ?
Ah, ça ne peut pas aller plus bas et plus haut. Hein. En ce qui concerne notre morale, plus bas, et en ce qui concerne la température, plus haut. Non, je pense que ça va quand même bien s'arranger. Alors, vous rappelez qu'aujourd'hui, nous aurons cet après-midi 21 à Dunkerque, c'est respirable, 25 à Biarritz, 27 à Brest et 28 à Toulouse, mais qu'après, c'est du 31 à Colmar, 32 à Paris, Épinal, 33 à Nancy, 34 Reims, 35 Nantes, Toulouse, Rennes, Poitiers, Limoges, Albi, 36-37, 38 à Marseille et Lyon, 39 à Bourges et Clermont-Ferrand, et puis le fameux 40 de Montluçon, 42 de Montpellier et Perpignan, 44 d'Avignon, et puis surtout les 45 de Nîmes, en espérant qu'on n'arrivera pas à de telles extrémités. Mais enfin, ils sont en prévision. Demain samedi, encore très chaud, notamment sur la capitale, mais dans l'ensemble, un petit recul des températures de 1 à 2 degrés. Dimanche, ça va vraiment baisser. Allez, 20-25 près de la Manche, 22-27 près de l'Atlantique et en général entre 26 et 32, on revient à des températures de saison. Lundi, chaud encore dans l'Est avec des orages aussi sur le Massif central et les Pyrénées, mais ça devient respirable partout. Mardi, mercredi, pas mal sur la moitié nord, nombreux orages sur les régions du sud, mais les températures auront retrouvé des valeurs qui sont les nôtres habituellement.
Allez, on va se dire que c'est la dernière journée où on part travailler et où on travaille avec de telles chaleurs. Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le vendredi 28 juin, toute l'actualité à 8h30 avec vous Sébastien Krebs.
Il vient de passer 26 ans derrière les barreaux. Jean-Claude Roman a quitté cette nuit la prison de Saint-Maur dans l'Indre. Il devait rejoindre une abbaye à 60 km de Châteauroux où il restera en liberté conditionnelle avec surveillance électronique. Jean-Claude Roman avait été condamné à la perpétuité pour avoir tué toute sa famille en 1993. Comité interministériel sur la canicule ce matin au ministère de la Santé. La ministre Agnès Buzyn se rendra ensuite dans le Gard et dans l'Hérault, qui avec le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône sont les quatre départements placés en vigilance rouge, une première en France pour une canicule. 76 autres départements restent en vigilance orange. L'affaire Vincent Lambert, la Cour de cassation rend sa décision cet après-midi. Elle dira si la Cour d'appel pouvait ordonner la reprise des soins pour ce patient en état végétatif depuis 10 ans maintenant. Et puis l'ouverture du sommet du G20 ce matin à Osaka, au Japon. Selon l'Elysée, 3 ou 4 pays membres seraient tentés de rejoindre la position des États-Unis sur le climat. Jusqu'ici, les 19 autres grandes puissances soutenaient l'accord de Paris de 2015.
Europe 1.
Et les 8h32, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Sébastien.
Et à la une de la presse ce matin, David, la vie en bleu.
Le bleu, une couleur froide, on en a bien besoin. Quand vos journaux ne font pas la une sur la canicule, alors ils titrent sur le match des Bleus ce soir. Évidemment, l'immense défi à la une du Dauphiné, ce soir ou jamais pour le Parisien aujourd'hui en France. L'heure bleue, c'est Libération. Sous le charme des Bleus, c'est la Voix du Nord ou encore l'équipe, la conquête de l'Ouest. Et tandis que l'actualité hexagonale, dans cette actualité, l'équipe de France se prépare à affronter l'Amérique. L'Amérique, elle, affronte le monde. Un monde en mal de gouvernance, titre La Croix, à l'occasion de la réunion du G20 qui cristallise toutes les tensions, nous dit Les Échos. Une Europe coincée entre Xi et Trump, s'inquiète l'opinion. Et dans l'humanité, Maurice Ulrich peste contre Donald Trump. On aimerait tant qu'un super-héros en colle une bonne à Donald Trump. Il rêve, Maurice Ulrich. Ouvrez Match ce matin, vous y verrez Trump, le poing levé. Le poing levé, pas pour chanter l'international, non, il lance sa campagne sous un ciel de feu. Préserver la grandeur de l'Amérique, c'est le slogan pour un nouveau mandat. Aujourd'hui, l'équipe de France, comme le monde, devrait se méfier de l'Amérique de Trump, car elle n'a peur de rien.
Et on commence avec par un jeu dangereux.
Ouvrir les bouches d'incendie en pleine chaleur, on appelle ça le street pooling. On en a parlé sur Europe 1, on voit ça souvent dans les séries américaines, ça fait joli, ça fait de belles images à la télé et en pleine canicule, c'est tentant. Un enfant de 6 ans a été grièvement blessé hier à Saint-Denis après avoir été projeté en l'air par le jet d'une bouche à incendie. Le Parisien aujourd'hui en France s'est procuré les chiffres de la direction de la sécurité de l'agglomération parisienne. Pour la seule nuit de mercredi à jeudi à Paris et proche banlieue, 27 ouvertures intempestives de bouches d'incendie ont été comptabilisées. Non seulement c'est dangereux, l'enfant de 6 ans était hier en arrêt cardiovasculaire avant d'être transféré à l'hôpital, mais en période de canicule, c'est 750 litres d'eau perdus par minute. Un jeu dangereux importé des États-Unis en 2015 et qui aurait mieux fait d'y rester. Et puisqu'on parle d'importation, on lira dans Libération les conséquences de la guerre douanière que se livrent les États-Unis et la Chine sur la culture cotonnière américaine alors qu'a démarré ce matin le G20. Trump a instauré des barrières douanières sur plusieurs produits chinois. Pékin a répondu en taxant le coton, ce qui n'arrange pas les affaires des agriculteurs de Géorgie qui ont massivement voté pour qui ? Pour Trump. C'est très concret, une guerre commerciale. Avant l'augmentation des taxes sur le coton américain, la Chine importait, nous dit Libération, 45% de son coton des États-Unis. Aujourd'hui, c'est 18%. La guerre commerciale est aussi un jeu dangereux.
Et un autre jeu dangereux a lieu ce soir au Parc des Princes, c'est celui des Américaines.
Avec le portrait de deux joueuses à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France et dans l'équipe. D'abord Alex Morgan, la meilleure buteuse de cette Coupe du Monde, une des joueuses les plus connues au monde et les mieux payées avec 2,6 millions de dollars par an, 167 sélections dans l'équipe des États-Unis. Une fille sympa et simple, au dire de ses collègues, ex-collègues de l'Olympique de Lyon, où elle a joué 6 mois en 2017. Et puis dans l'équipe, le portrait plus contrasté, plus rugueux de la capitaine de l'équipe américaine, Megan Rapinoe. Et nous dit l'équipe insoumise dans un combat permanent et exubérante. Le quart de finale contre la France ce soir, j'espère que ça va être un gros bordel. Derrière la grande gueule, derrière la tornade aux cheveux roses, Megan Rapinoe cache une militante politique et une patriote américaine contrariée. Quand dans le stade retentit l'hymne américain, l'attaquante ne chante plus pour son pays, ne met plus la main sur le cœur, elle reste là, le regard absent, les mains dans le dos pour protester contre un président qu'elle considère sexiste, raciste et étroit d'esprit. En tant qu'homosexuelle américaine, explique-t-elle dans Libération, je sais très bien ce qu'est de regarder le drapeau sans avoir le sentiment qu'il protège toutes vos libertés. Aux critiques de la joueuse, on en parlait hier dans le journal des sports, Trump a répondu avec aplomb et une certaine logique. Meghan devrait d'abord gagner avant de parler. Se méfier du bon sens de Trump et du bon jeu des Américaines.
Et le combat ce soir sur le terrain, on le suivra bien sûr sur Europe 1. Merci beaucoup, c'était la revue de presse de David Abiker.
8h36, c'est l'heure du journal de la Coupe du Monde féminine de foot. Europe 1 est la radio officielle de la compétition. Et ce journal, comme chaque matin, c'est avec Jérôme Lacroix.
La Coupe du Monde féminine.
L'événement foot est sur Europe 1.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin.
Et si elle le faisait, France-États-Unis, le quart de finale, digne d'une finale, le rêve bleu face à la référence. Et si elle chancelait encore ces Américaines comme lundi dernier. Et si elle gagnait encore les Françaises comme en janvier dernier. Et si. Et si on leur choisissait une chanson au bleu, Sébastien. Proposition en fin de journal.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1. Radio officielle.
USA. 10 000 supporters américains sont attendus ce soir au Parc des Princes sur plus de 45 000 spectateurs. Ces Américains, des groupes d'amis, des familles. Parce qu'outre-Atlantique, il se vit ainsi le soccer au féminin, arme de distraction massive, sport numéro 1 chez les filles. Près de 2 millions de joueuses. En France, c'est 185 000 licenciés pour l'instant. Et une sélection US au palmarès inégalée. 3 Coupes du Monde, dont la dernière, 4 titres olympiques.
Ouais, ce sont les meilleurs sur le papier, les Américaines, on l'a compris, les Françaises ne sont pas favorites.
Elles n'ont jamais battu les Américaines dans un grand rendez-vous, une seule confrontation en Coupe du Monde, 2011 demi-finale et défaite française 3-1. Mais aujourd'hui, ces Bleus jouent à domicile dans un Parc des Princes comble. Le groupe de supporters, les irrésistibles Français, a prévu une animation dans les tribunes, un tifo avant le coup d'envoi. Alors si aujourd'hui, elles ne sont pas tout bleu, tout flamme, les joueuses, ce sera quand ? Mais elles le sont, dixit la sélectionneuse Corinne Diacre.
Elles sont au taquet. Donc, nous, on a des choses à prouver aussi. On sait que depuis le début, on n'est pas parfaite. Maintenant, vous savez, un match, ça reste un match. Il suffit qu'il y en ait une qui ne soit pas au top de sa forme pour mettre le collectif, parfois, en difficulté.
Et ce sera le 26e France-États-Unis de l'histoire. 17 défaites françaises seulement 5 victoires.
Ne regardez pas ça. Sauf que la tendance du moment, elle est bleue.
Un nul et deux victoires lors des trois confrontations les plus récentes. En janvier, je vous le disais en titre au Havre, ces Bleus éteignaient 3-1 des Américaines, il est vrai, en veille, alors en préparation de leur pré-saison. Mais ce jour-là, on les a quand même battus, disait hier Corinne Diacre, qui a capitalisé sur ce succès pour instiller l'idée que oui, c'est possible. Au-delà des discours, les faits. Les Françaises ont notamment visionné cette semaine le 8e de finale des Américaines face à des Espagnols qui les ont bousculés lundi, courte victoire. La capitaine française Amandine Henry en a retenu plusieurs leçons.
On va imposer notre jeu. On est consciente, on a vu le match aussi face à l'Espagne. Elles ont aussi des défauts qu'il va falloir exploiter, on en est consciente. On est motivé et puis forcément la qualif, il va falloir aller la chercher, elles ne vont pas nous la donner.
Et côté feuille de match, Gaëtan Tinet pourrait retrouver une place de titulaire en attaque aux côtés de Jenny Le Sommer, Valérie Gauvin et Kadi Diatou. Diani, côté américain, on attend les stars, Megan Rapinoe, Alex Morgan dont David Abicard nous parlait à l'instant. Et puis l'invité surprise, là c'est pour tout le monde, la chaleur 27 degrés prévue au coup d'envoi.
Mais ce sera à 21h le coup d'envoi France-États-Unis à suivre en direct en intégralité sur Europe 1 et puis soirée spéciale qui va démarrer dès 17h avec Mathieu Béliard qui sera en direct aux abords du Parc des Princes.
Et les gagnantes de cette confrontation affronteront en demi-finale les Anglaises, tombeur hier soir 3-0 des Norvégiennes. Et si les Bleus vont encore plus loin, Sébastien, il sera temps de leur trouver une petite chanson. Tenez, deux titres quand vous baladez sur Internet, deux titres qui sortent du lot en ce moment.
Sélection féminine, sélection féminine, sélection féminine, si t'as pas le level, on t'élimine.
Sélection féminine, si t'as pas le level, on t'élimine. La rappeuse Juste Chani, et puis il y a ça aussi.
Moi, je préfère celle-là.
On est ensemble de la chanteuse Chérine qui a déjà été.
Deux ambiances.
Qui a déjà été reprise celle-ci sur les réseaux sociaux par quelques joueuses. C'est peut-être un indice.
Allez, au taquet avec les Bleus, comme disait la sélectionneuse. Elle est au taquet aussi, Céline Dacosta, avec son écharpe et ses lunettes bleu, blanc, rouge depuis ce matin. 8h40.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Restez avec nous. La star arrive. Pas la star des Bleus, mais la star de la radio bleue. C'est Nicolas Canteloup dans un instant.
Il est 8h42.
Et l'heure de le retrouver comme chaque matin. Comment ne pas terminer la semaine sans lui ? C'est Nicolas Canteloup.
Oui. Vous la refaites la phrase ou pas là, Sébastien ?
Comment terminer la semaine sans lui ? C'est bien. Hein ?
C'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Allez, on va retrouver Banikos pour le titre principal.
Ouais, attention à la syntaxe, double négation. Comment ne pas terminer sans lui non plus ? Bref. On voit que je ne suis plus là.
On est content de vous avoir.
Salut Sébastien, salut à tous. Salut Julie.
Salut.
L'actualité, c'est bien sûr ces quatre départements placés en vigilance orange à Marseille.
Rouge, excusez-moi.
À Marseille, la température pourrait atteindre des niveaux jamais connus. La ville est plus chaude que jamais. Et nous.
Non, écoutez, franchement, pardon, monsieur Aliagas. Mais vous dites là, des carabistes rouillent.
Bonjour Jean-Claude Godin, on vous a reconnu là.
Bonjour madame Leclerc. Écoutez, bonjour à l'entourage. Écoutez, on ne peut pas dire cela. Marseille est de moins en moins chaude chaque jour en ce moment.
Forcément,
les cousins Scarpelli et les frères Tonelotti sont épuisés par la chaleur. Donc, ils ne sortent pas, ils ne sortent rien. Et je vous garantis que quand ils restent chez eux, Marseille est moins chaude. Donc, c'est ridicule cette arête rouge, franchement.
Eh ben, merci pour cette mise au point, monsieur Godin. Oui, et merci Nikos. Hein. Salut Nikos.
Ouais.
Nicolas Sarkozy a donc sorti un nouveau livre intitulé Passion.
Oui, bon, ça va, ça va. Ça va, on le saura. Il a sorti un livre qui s'intitule Passion, vous avez déjà parlé hier. Et en plus, ce titre est ridicule.
Ah, François Hollande, non, non, on voulait quand même revenir sur la sortie de ce livre, quand même, parce que.
Parce que quoi? Parce que rien du tout, madame Julie. Enfin, c'est... Arrêtez d'insister lourdement. Vous avez annoncé la sortie du livre de Nicolas Sarkozy. Bon, ben voilà. On va pas lui faire une promotion toute la semaine. C'est un fichier déjà dans tout Paris. C'est pas le seul ancien président à publier des livres. Franchement, en plus, Passion. Quoi? Passion, c'est ridicule.
Ah bon?
Bah, ça fait pas sérieux. Ça fait roman à l'eau de rose. Enfin, allons. Les leçons du pouvoir. Voilà, ça fait sérieux.
Monsieur Hollande, on a déjà parlé de votre livre à vous pas mal de fois, hein, figurez-vous.
Oui, mais enfin quand même. Il est gonflé.
C'est pourquoi,
bah, écoutez, l'ancien président qui écrit des livres à succès, c'est moi. Hein, on peut pas être deux sur le même créneau. Hein, il a qu'à faire de la peinture, je sais pas, du macramé, s'il s'ennuie, qu'il prenne des cours de salsa, mais écrivain, c'est déjà pris, c'est moi. Donc
d'accord.
Je redis à votre antenne, c'est moi.
D'accord, vous êtes jaloux, hein, vous.
Jaloux, oh non. Loin de moi ce bas sentiment. Non, je l'avertis amicalement, c'est tout. Donc le Cultura de Maubeuge est trop petit pour nous deux. Le rayon librairie papeterie de Auchan de Plougastel, c'est pareil. Donc les Leclerc, les Carrefour, les Auchan, les Shopee, c'est mon domaine. Je veux bien être Bagnani, mais lui laisser les Coxy Market, mais pas plus.
Bon, bah écoutez, vous verrez ça en direct avec lui. Hein. Merci, monsieur Hollande.
Tu es en grande distribution.
Voilà, oui. C'est bien, vous en avez cité plusieurs, donc on est bon. Allez, on va reparler canicule. Elle atteint normalement son pic aujourd'hui, hein, après 5 jours éprouvants.
Pardon, madame Julie, j'ai une déclaration à faire.
Monsieur Balkany, bonjour. Alors allez-y, ça a l'air important. Hein, non
oui, merci, voilà, j'avoue tout. J'avoue, j'ai détourné des millions d'euros. J'étais corrompu, j'ai acheté des riads, des villas, des pamplemousses, hein, tout ce que vous voulez. J'ai volé des sucettes, oui, monsieur Krebs, j'ai volé des sucettes à des enfants, j'ai vendu de la drogue, si vous voulez, je m'en fous, mais voilà, je plaide coupable.
Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Balkany?
Je suis comme tous les Français, j'ai chaud. Ouais. Je crève de chaud avec cette putain de canicule et mon avocat, maître Dupont-Morito, m'a dit, écoute, si vous plaidez coupable, vous pouvez vous retrouver à l'ombre pour 7 ans. Donc j'ai 71 ans, 7 ans à l'ombre, ça fait 7 ans d'espérance de vie supplémentaire. Bon, allez, on me les met ces putains de menottes ou quoi, là? C'est pas du service, ça.
Merci, monsieur Balkany, 7 ans à l'ombre.
Toute une vanne basée sur un mauvais jeu de mots à l'ombre. Bon, voilà.
Bah oui, mais non, mais ça va.
C'est la
coup,
fin
hein.
de saison, ah, ça non, se non. sent.
Non, mais c'était bien. Allez, jeudi noir pour la Tunisie. Hier, en parallèle de l'attentat de Tunis, le président tunisien a été victime d'un malaise hier. On va appeler l'hôpital où il a été admis.
Malade. Complètement malade. Oui, hôpital Sainte-Clarisse des Éclopés, Christiane à votre écoute, bonjour.
Oh, mais vous avez encore changé d'établissement, Christiane.
Oh, mais madame Julie,
oui,
bonjour,
bonjour,
je vous connais,
Christiane.
Votre voix séduisante, comment allez-vous?
Oh, ça va, moi.
Bon, écoutez, oui, je suis retournée aider à l'hôpital. Oui, parce qu'on avait peur que Monsieur Bouteflika nous fasse un malaise avec la canicule.
Oh, bien sûr.
Puis
oui.
Finalement, devinez quoi? Il a un nouveau petit copain. Oh oui, ils ont le même âge, ils sont dans le même état. Alors forcément, ben, ça crée des affinités, ils s'entendent bien.
Ah oui, ils sont ensemble, là, le président algérien et le tunisien?
Oui. Oh, ils sont marrants. Vas-y que ça papote et vas-y que ça se discute. Oh, quand Monsieur Bouteflika dit bip bip, vous avez Monsieur SBC qui dit tute-tute. Oh, regardez. Vous les entendez? Oh, ils chahutent. Oh, arrêtez là, ça suffit les foufous là. Oh, ça sert à rien de dire des gros mots en faisant tute. Hein, moi. Oh là là. Enfin, Julie, à cet âge-là, vous voyez, c'est des vrais gamins. Hein. Bon, je vous laisse, il faut que j'aille m'occuper de M. Juppé. J'ai mon éponge humide, il faut c'est l'heure d'aller le coiffer. Allez, en plus, ça va leur affriter.
Oh non, arrête, Christiane. À bientôt quand même. Hein. Il n'y a pas que la santé du président tunisien qui inquiète. Angela Merkel a encore été prise de convulsions, de spasmes pendant une cérémonie officielle à Berlin, après avoir connu un épisode semblable il y a 10 10 jours, souvenez-vous, la santé de la chancelière et chancelante.
Mais qu'est-ce que vous m'annoncez là? Angela est malade?
Bah Nicolas Barré, oui, on dirait, mais elle se veut rassurante quand même. Oh, hein, elle est malade,
oh mon Dieu,
malade.
Angela malade, faut que j'aille en Allemagne, faut que j'aille déposer des bougies devant le Bundestag.
Oh bah enfin, calmez-vous, c'est juste un épisode de petit tremblement, voilà.
Ouais, vous savez, j'ai toujours rêvé de voir Angela Merkel faire du booty shake, mais pas dans ces conditions. Je vais prier. Ah, oui. Allez, je vais prier pour elle.
C'est
notre,
horrible.
Notre Helmut Schmidt qui est aux cieux. Que vos analyses soient sanctifiées. Donnez-nous aujourd'hui nos exemplaires du nouvel économiste de ce jour. Pardonnez-nous nos politiques de relance par la consommation. Et ne nous soumettez pas à la tentation d'acheter des titres aux porteurs décorrélés des trackers de la bombe.
Oh, mais Nicolas, stop, calmez-vous, elle va bien. Angela.
Mais mettez-vous à ma place. C'est un peu comme si Jean-Michel Apathy perdait Arlette Chabot. Ou si voilà, Laurent Cabrol perdait Evelyne Delia.
Laurent, Evelyne Delia.
Angela, laisse-moi te soigner. Je te ferai un cataplasme de page saumon du Figaro. J'arrive.
Oh bah ça va la guérir, ça. Merci Nicolas Barré. Et puis, en cette période de canicule, les hôtels Accor ont ouvert leurs espaces climatisés aux personnes âgées et fragiles. On va appeler les hôtels Accor pour en savoir plus sur cette mesure.
Bonjour et bienvenue aux hôtels Accor. Les hôtels Accor, des hôtels internationaux mais aussi mondiaux, répartis en toute harmonie, tout autour du globe, dans des pays aussi bien froids que chauds.
Nicolas Sarkozy, le conseil d'administration des hôtels Accor, dont vous êtes membre, a donc décidé de mettre à disposition...
Oui, non mais attendez, Mme Julie, j'ai du boulot. Moi, je finis mon speech, vous permettez?
Allez-y.
Envie de vous détendre en ne décédant pas pendant une canicule bouillante? Les hôtels Accor vous présentent leurs espaces spéciaux pour vieilles personnes qui ont chaud et qui veulent encore vivre 1 an, 2 ans, voire même, en option, 5 ans. Envie de découvrir les plaisirs de ne pas aller aux pompes funèbres et au cimetière? Les hôtels Accor vous évitent les tracasseries administratives du mourage prématuré d'un proche vieillissant en mettant à votre disposition ces célèbres frigos à vieux. Grâce à Frigos à vieux, stockez votre grand-père dans un de nos espaces 3e âge de classe. Et sortez faire du shopping, du mini-golf ou des pique-niques sans vous demander toutes les 3 minutes s'il va bien, s'il va mourir ou s'il lui faut de l'eau. Les hôtels Accor s'occupent de tout. Nous les hydratons nous-mêmes grâce à notre personnel qualifié et ainsi, nous ne vous les rendons pas tout secs et tout fripés. Alors, qu'elles soient en juillet ou en août, bonnes vacances avec les hôtels Accor.
Nicolas Cantelou.
Et bonnes vacances Nico. Aussi à vous, Nicolas.
Bonnes vacances.
Bonnes vacances aux auteurs. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche, bravo à vous tous.
Bravo pour cette saison, Nicolas.
Merci, Sébastien.
Et à très bientôt et bon été à vous. Et la semaine prochaine, best-of. Hein, avec Nikos qui sera encore là la semaine prochaine. Il est 8h52. Le tour de la question à suivre à partir de 9h avec vous, Andy Bouchard.
Bonjour à tous, Nicolas Cantelou est toujours là. Qui a dit « Je sais trop combien chaque existence est un miracle, à la fois si semblable et si différente ». Voilà, c'est au cœur de passion, Nicolas Sarkozy, on en parle ce matin. Évidemment, c'est pas fini, n'en déplaise à Monsieur François Hollande, Sébastien Krebs. Toutes les passions sont-elles bonnes à dire? Et qu'attend vraiment Nicolas Sarkozy avec la sortie de ce livre? Nous recevons un de ses proches, Camille Pascal, qui a été informé de la sortie du livre 48 heures avant sa sortie. Jean Garrigue, historien de la vie politique, qui a beaucoup travaillé sur le storytelling, justement, de Nicolas Sarkozy. Puis à partir de 10h, je vous propose un guide de débrouille de l'étudiant, parce qu'on passe souvent d'un monde à l'autre hein, quand on a le bac en poche. Tout change, plus de repères, on quitte parfois la maison et on part étudier assez loin du cocon familial. Alors il y a plein de tutos sur internet et nos invités seront vos guides ce matin.
Le tour de la question avec des vraies imitations de Nicolas Sarkozy dedans.
Il y en aura vraiment. Du best-of de Nico à suivre.
Wendy Bouchard qui attend dès maintenant vos appels au 39-21, 50 centimes la minute. À suivre la météo et l'essentiel de la matinale sur Europe 1. Il est 8h54 à suivre l'essentiel de la matinale. Tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol, Sébastien.
Avec une journée encore suffocante, hein, Laurent Cabrol.
Et si nous allions passer cette journée à Biarritz, à Brest et à Lille?
Ah oui, plus frais.
Il fera 25 à 28 degrés. 25 à 28, c'est sympa quand même.
On y va.
Bon, on y va, on est parti. Et puis, mais alors, Colmar, 31 degrés à Colmar et Belfort. 32 à Épinal, Paris, 32, c'est pas trop mal. 33 à Nancy-Niort, et ça commence à devenir grave. 35 à Nantes, 36 à Toulouse, 37 à Limoges, Albi, Castres, Poitiers, Marseille, Lyon. Allez, 38. 39 pour Bourges et Clermont-Ferrand, et les villes qui sont les plus marquées par la canicule. Malheureusement, vous allez souffrir, chers amis, à Montluçon, à Perpignan, Montpellier, à Avignon et Nîmes, entre 40 et 45 degrés. Ce sont des villes en vigilance rouge, et en tout cas des départements en vigilance rouge. Ce matin, c'est Nantes, Lyon et Bastia qui ont eu le plus chaud ce matin au lever du jour, avec 26 degrés. Et il ne faisait que 20 degrés à Paris et 16 à Strasbourg. Voilà, vous savez tout en ce qui concerne les valeurs. Maintenant, simplement vous dire que le ciel, certes, est un petit peu couvert sur les côtes de la Manche et sur les côtes atlantiques, mais tout ceci ne va pas durer, malheureusement. Nous allons avoir un ciel bien dégagé. Et puis ensuite, dans toutes les villes de France, nous aurons un temps d'été très chaud, comme je viens de l'indiquer. Pardon. En ce qui concerne la suite, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens d'un mot, juste pour vous dire qu'à partir de dimanche, on respirera bien ou un peu mieux sur l'ensemble des villes de France et sur l'ensemble des régions de France. Et la semaine prochaine sera une semaine, j'allais dire, presque normale. Une semaine d'été, hein. Mais presque normal.
Allez, courage. Donc, il reste deux jours un peu compliqués où on prend évidemment toutes les précautions. On s'hydrate. Merci, Laurent Cabrol.
Vendredi 28 juin, on revient sur les moments forts de cette matinale, Sébastien Krebs.
Et Europe 1 aux couleurs des bleus, c'est presque une finale. Avant l'heure, le choc France-États-Unis ce soir en quart de finale. Un coup d'envoi 21h au Parc des Princes. Et le défi est de taille pour nos joueuses dans cette Coupe du Monde qui devront battre la meilleure équipe du monde pour pouvoir continuer l'aventure. La pression à son comble, on en parlait à 7h45. Avec une invitée exceptionnelle, l'ancienne joueuse américaine Brandi Chastain, double championne du monde et icône du foot féminin.
Jouer à domicile pour les Françaises, ça leur donne un certain confort. Elles ont tout le pays derrière elles, elles ont leur famille, leurs amis, elles peuvent garder leurs habitudes. Ça, c'est à leur avantage. Mais je vois aussi la pression qui pèse sur le pays hôte. Et le fait que ce qui se joue aussi, c'est le destin du foot féminin en France, qui peut exploser ou bien rester dans une certaine précarité si elle ne gagne pas la Coupe du Monde.
Le match à suivre ce soir sur Europe 1 avec une soirée dès 17h avec Mathieu Béliard depuis le Parc des Princes. Et le match, bien sûr, dans son intégralité. Coup d'envoi 21h. Les Français se passionnent pour cette compétition. On attend encore des audiences télé records ce soir. Ce qui réjouit la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Elle était l'invitée d'Audrey Crespo-Mara.
Si on ose laisser la place aux femmes, si les médias diffusent du sport féminin et si les filles s'engagent comme elles se sont engagées dans cette compétition avec le sourire, la sérénité, ce qu'elles sont en fait, je suis sûre que ça attire du monde. C'est normal, j'allais dire juste et normal, mais c'est vrai que c'est surprenant et je remercie les diffuseurs qui ont choisi de le faire en clair, d'avoir eu cette audace.
Et puis l'actualité de ce vendredi, c'est aussi évidemment la canicule. Nouveau record de chaleur attendu. Vigilance rouge dans 4 départements du sud-est. Et parmi les personnes les plus exposées, il y a bien sûr les sans-abri. Contrairement aux idées reçues, la chaleur est plus dangereuse que le froid. Alors la Croix-Rouge multiplie les maraudes, comme à Créteil dans le Val-de-Marne. Écoutez, c'était dans le journal de 8h.
Pour moi, c'est très difficile. Tout à l'heure, j'étais en plein soleil. On est en danger quand même.
Comment vous faites? Vous cherchez des endroits frais? C'est ce que vous disiez tout à l'heure?
Au parking. Mais il ne faut pas que je tombe sur les vigiles. On est obligé de se cacher.
Ils se déshydratent facilement. Ils peuvent avoir une température assez élevée. Donc, il faut rester vigilant. Donc, s'enquérir de leur état, vérifier que tout va bien. S'assurer qu'ils arrivent à trouver de la fraîcheur dans un parc, dans un centre commercial.
Voilà pour l'essentiel, ce qu'il ne fallait pas rater ce matin sur Europe 1. Merci à toutes les rédactions, merci à vous de votre fidélité. J'étais ravi de vous accompagner ce matin. Je vous souhaite une bonne journée, un très bon week-end. Prenez soin de vous, bon week-end Céline.
Merci et merci à vous Sébastien.
Et Wendy Bouchard, oui, dans un instant pour le tour de la question.
Avec tous vos témoignages et vos commentaires sur le livre de Nicolas Sarkozy au 3921. Salut Sébastien.
Salut, bon week-end.